Bien, je suis très heureux et très honoré de recevoir Maurice Godelier. Maurice Godelier me pardonnera si je rappelle son âge, il a 82 ans. Voilà, on va faire un numéro de duettiste. Et c'est un agrégé de philosophie, un ancien élève de l'école normale supérieure de Saint-Cloud qui a mal tourné, ou qui a bien tourné, comme on voudra, puisqu'il a consacré l'essentiel de sa vie au développement d'une discipline qui est l'anthropologie. Il a fait ce qu'on appelle son terrain, c'est l'expression qu'emploient les hommes de l'art, chez les Barouya, une tribu de Nouvelle-Guinée qui n'avait pas vu beaucoup d'hommes blancs avant lui. Et même avec lui, ils n'ont pas vu beaucoup blanc parce qu'il était rouge déjà, à cause du soleil. Voilà. Et c'est ce qu'il raconte, hein, je n'invente rien, c'est ce qu'il raconte dans un de ses, ou dans deux au moins, de ses ouvrages. À propos de ses ouvrages, j'en recommanderais, disons, trois ou deux, trois. Le dernier, un petit recueil d'entretien qui est à la fois une autobiographie et puis une réflexion méthodologique et sur l'anthropologie et sur les intérêts de l'anthropologie. C'est pas très cher, ça se trouve aux presses universitaires de Lyon. Ça s'appelle La pratique de l'anthropologie, du décentrement à l'engagement. Un autre ouvrage, bilan, si j'ose dire, il y a beaucoup d'ouvrages importants qu'il a publiés avant, mais qu'on peut lire aussi, c'est Au fondement des sociétés humaines. Alors là, j'ai l'édition un peu coûteuse de chez Albin Michel, mais c'est sorti en Flammarion, en livre de poche, c'est un peu moins coûteux. Et puis, un livre quand même très intéressant pour ceux qui ont du mal parfois à lire Lévi-Strauss, sa monographie sur Claude Lévi-Strauss, qui est un véritable. Enfin, on apprend vraiment beaucoup, on apprend à lire au fond cet auteur qui n'est pas si facile à lire. Tout le monde s'extasie de Lévi-Strauss, mais c'est pas si simple de circuler dans cet auteur. Et là, on a une autobiographie, enfin une biographie intellectuelle et évolutive de la pensée de Lévi-Strauss et théorique. Et donc, c'est vraiment très très intéressant. Et là, c'est pas difficile. Le titre, c'est Lévi-Strauss par Maurice Godelier. Voilà. On pourrait citer aussi l'imaginaire, l'imaginé et le symbolique, et puis quelques autres ouvrages, l'énigme du don aussi, puis des ouvrages comme l'idéal et le matériel. Mais tu diras ceux, tu parleras de ceux dont tu veux parler ou pas d'ailleurs. Tu as la parole maintenant pour le temps nécessaire. Voilà. Donc, à toi, Maurice.
Vas-y, vas-y. On a jusqu'à quelle heure? 2 heures du matin, là?
Oui,
à peu près. Ça va. Bon, allez. Écoutez, je suis passé par vos épreuves, là, quand j'étais petit, là. Ah, les cagnes et tout ça. C'était dur. J'ai rencontré des types bien, très bien. Foucault, tout ça, c'était bien. Quand j'ai passé la grecque de philo, là, je racontais tout à l'heure, c'est une anecdote. Le président de jury s'appelait Souriau, Madame Bachelard, Suzanne Bachelard, tout ça. Donc ils me disent. Vous avez fait un très bel oral. Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Surtout pas de philosophie, monsieur le président. Putain, ils étaient comme ça. Alors ils disent, mais, oui, je comprends, non, mais je comprends, mais pourquoi? Ben, écoutez, je voudrais pas philosopher toute ma vie sur la philosophie. Je préférais philosopher sur autre chose. Et donc apprendre autre chose que la philosophie maintenant pour devenir vraiment philosophe. Alors ça les a un peu sciés là. Bon. Alors qu'est-ce que vous voulez faire? Oh, écoutez, j'aime bien les maths, mais je suis pas bon. Je suis pas vraiment bon en maths. La biologie, j'aime beaucoup, mais je viens de me marier, ça va me durer encore 6 ans là pour la médecine et tout. Là. Et finalement, pour mes idées politiques, je préférais l'économie politique. Ah bon, très bien, on vous donne une année d'école normale supérieure de plus pour vous cultiver. Ok, non? Pas mal, hein? Alors j'ai commencé à lire Marx, Keynes et tout ça pendant un an parce que c'était nul à l'université. Je veux dire, c'était pas bon, quoi. Et au bout de l'année, on me dit, il faut aller voir Braudel. Vous vous rappelez de Braudel, vous connaissez, non? Le grand historien, ils sont nuls, hein, tu vois, ils connaissent pas. putain. Alors, donc, je discute pendant une heure avec lui. Il me dit, avant de vous dire non, je voulais vous voir. C'est dur, hein? Alors, je dis, parce que c'était des profs de kite qui m'avaient dit d'aller le voir, quoi. Et alors, on discute des questions du genre, qu'est-ce que vous pensez de Descartes? Enfin, des trucs pareils, quoi. Des trucs. Et après, il prend le téléphone à un moment, il dit, il appelle l'administrateur général de l'école des hautes études, et il dit, il y a un jeune homme là qui est, il est bien, là. Mettez-le sur la liste, chef de travaux. Pas mal, non? Donc, j'ai évité, je m'excuse de le dire, j'ai évité le lycée comme ça, vous voyez? Parce que j'aurais été quelque part. Bon, après, j'ai fait une carrière, justement, un peu comme ça, en désaccord. Parce qu'au bout d'un an que j'ai fait des mathématiques, je suis parti faire des mathématiques économiques, non? Donc j'étais avec des polytechniciens, tout ça. Et alors on faisait des modèles mathématiques d'une économie de concurrence capitaliste. Et après on faisait un modèle mathématique d'économie centralisée socialiste. Au bout d'un an, je me suis tiré. J'ai dit, c'est pas possible. Il faut que je voie une économie réelle, quoi. Alors, qu'elle soit sous-capitaliste, très bien. Donc je regarde un peu. Et je vois que le domaine qui me permettait d'aller sur le terrain, pas comme un mec qui fait des modèles, hein, comme je faisais, c'était l'anthropologie. Vous comprenez? Bon. Et à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, j'avais lu Le Capital, des tas de trucs comme ça. Quoi. Et j'envoie une lettre à Lévi-Strauss, là, que je ne connaissais pas. Quoi. Et je lui envoie mes premiers écrits sur les structures du capital. Alors lui, le mot structure, ça lui plaît. Là. Et donc, je suis devenu maître assistant de Lévi-Strauss. Vous vous rendez compte? Bon, c'est bien. Hein, bon. Mais ça, après, il fallait aller sur le terrain, parce que l'anthropologie, c'est le terrain. Hein. Alors, je suis parti un an au Mali, envoyé par l'UNESCO. Pour étudier les effets du plan socialiste, il venait de passer au socialisme. Le Mali, indépendant, était socialiste. Ce n'est pas le cas maintenant. Hein, bon. Et je suis resté un an pour essayer de rencontrer le ministre du plan. Donc il y avait un ministre du plan, il y avait l'Égypte du plan, il y avait tout sauf le plan. Mais bon, j'ai passé beaucoup de temps à voyager dans le pays. Et j'avais emmené 43 kilos de photocopies sur l'anthropologie économique qui était seulement développée aux États-Unis. Donc j'ai eu le temps de lire. Et quand je suis revenu, j'ai dit à Lévi-Strauss que je n'avais pas fait de terrain, parce que mon objet n'existait pas. Non, ça arrive, non? Alors je veux partir en Bolivie. Vous connaissez peut-être Metro, vous avez entendu parler de ce type qui s'appelait Metro, Alfred Metro. Alors, on discute pour aller dans son terrain. Il a 60 ans, moi je suis jeune. Il me dit, vous pouvez aller dans le terrain où j'ai commencé, j'avais 23 ans, comme ça on aura. Et le mercredi après-midi, après que c'était conclu, quoi, je le quitte à 4 heures, et il se suicide après mon départ. Je ne suis pas responsable. Alors après, on enterre le monsieur, là, au cimetière de Bagneux. Et on est là, Lévi-Strauss et moi, derrière le catafalque. Vous savez ce que c'est qu'un catafalque? Il n'y a pas un mot de français qui vous manque, là? Putain, comme on dit, c'est pas possible. Un catafalque, c'est, vous avez les deux chevaux devant avec des pompons, puis vous avez derrière, là, vous voyez ce que je veux dire? Donc, on était avec Lévi-Strauss et il me dit, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, je dis, je devais partir en Amérique latine, je parle assez bien espagnol, malheureusement, il s'est suicidé et tout. Il me dit, écoutez, bon, alors vous savez, Lévi-Strauss, c'est un type vachement sérieux. Il dit, mon cher ami, si j'ai un conseil à vous donner, maintenant, le paradis de l'anthropologie, c'est la Nouvelle-Guinée. C'est un type sérieux, quoi. Donc je suis parti en Nouvelle-Guinée, un terrain qui a duré un peu plus que d'habitude, 3 ans. Hein. Alors il y avait mes copains, Althusser, tout ça, qui m'envoyaient des lettres en disant « tu dois être seul, n'est-ce pas ?» On pense à toi. J'ai dit « putain, j'ai 700 personnes autour de moi, et j'en ai 20 tous les jours qui visitent mon lit, ma table, je suis envahi par des gens qui existent. » Oui, parce que lui pensait à ma solitude de blanc. Bon, passons là-dessus. C'était des anecdotes pour vous montrer que la vie est compliquée et que c'est des circonstances hasardeuses qui vous donnent aussi une ligne droite. Vous comprenez ce que je veux dire? Le hasard des rencontres. Hein. Moi, j'étais en Hippocagne à Fédère. C'est l'année où Foucault est arrivé à Lille. Et à la fin de l'année, il m'a dit « Maurice, tu ne vas pas intégrer là. » Et sans que je le sache, il m'a inscrit comme pensionnaire à H4. Donc tous les samedis, j'allais coucher chez Foucault. Je n'ai aucun rapport homosexuel. C'était quand même, vous voyez, un peu le série de hasards qui peuvent construire une existence, mais il faut avoir quand même... Le hasard des choses a fait que j'ai été aussi directeur de toutes les sciences sociales au CNRS, et j'ai créé le grand département des sciences de l'homme et de la société, donc je peux vous parler des sciences sociales. Donc si vous voulez, c'est pour ça que j'ai... Alors, le nombre d'années sur le terrain, dans une société qui avait connu les premiers blancs à peu près 7 ans avant que j'arrive, donc c'est un peu le hasard d'arriver dans un endroit où, comme vous vous rendez compte, ils voient leur premier blanc 7 ans avant que j'arrive. Donc c'est comme si, et 10 ans avant, ils utilisaient encore des outils de pierre. C'est comme si, du point de vue historique et sociologique, le néolithique se fermait pour eux et pour moi. Vous comprenez? Après, ils ont eu des outils d'acier, ils ne savaient pas d'où ils venaient. Solingen et tout ça, l'Allemagne, ou Sheffield en Angleterre, ils ne savaient pas. Et donc j'ai vu les premiers termes d'une colonisation blanche encore, hein, les Australiens, hein, et le début, colonisation, christianisation. Et les transformations d'une société tribale. Donc j'ai pu étudier les sociétés tribales de près. Alors qu'on disait que les tribus allaient disparaître, c'était des vestiges de l'évolution. Regardez les gars, les talibans, c'est des tribus. Regardez en Syrie, c'est des tribus. Regardez les gars qui dirigent maintenant le djihad, c'est des gars des tribus du nord de l'Irak. Al-Baghdadi, on sait d'où il vient et tout ça. Donc c'est des acteurs historiques, ce n'est pas des vestiges de l'histoire, vous comprenez? Donc... J'ai passé beaucoup d'années sur 20 ans, 7 ans sur le terrain, et j'ai vu toutes les transformations se faire. Christianisation, tous les barouillas aujourd'hui sont tous protestants américains, hein, c'est les radicaux américains qui arrivent, et c'est des sectes américaines de South Carolina, tout ça. Et ils font du business maintenant. Il y a un barouilla qui est professeur de mathématiques à l'université. Il y en a d'autres qui sont devenus infirmiers, etc. Et donc, mon prochain livre qui va sortir, je vous le dis tout de suite, s'appelle « Suivre Jésus et faire du business ». Vous avez compris ? « Suivre Jésus et faire du business », c'est exactement ce qui se passe dans la Polynésie, et ailleurs, c'est suivre Allah et faire du business. Vous comprenez le rôle de la religion maintenant? On ne parle pas de l'État, là. On parle business plus Dieu. Vous comprenez? Vous êtes dans ce monde-là. Donc c'est pour ça, quand j'étais aussi le patron des sciences sociales, j'avais 460 laboratoires, mes enfants. Le CNRS, c'était à l'époque une puissance énorme qui a beaucoup diminué. Alors, pourquoi je vous dis l'importance des sciences sociales? Parce qu'il s'est passé deux événements fondamentaux depuis 50 ans. Il y a eu, et vous allez vivre là-dedans maintenant. Moi aussi j'y vis, mais j'ai moins d'années à vivre que vous. J'espère pour vous d'ailleurs. La décolonisation, l'effondrement du système colonial. Le fait que, si vous voulez, Jules Ferry, cultivez-vous, école libre et obligatoire, mais gratuite. Mais le même type, c'est, il dit, coloniser, c'est civiliser. Hein? Vous voyez, au XIXe siècle, on promeut la culture pour les paysans, pour les fils d'ouvriers, tout le monde à l'école, c'est bien. Mais en plus, aller en Afrique, etc. Ça, c'est le grand changement. Et sans ce grand changement, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe en Syrie, en Libye, etc. Le deuxième grand changement, ça a été, par rapport à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'effondrement des pays communistes. L'effondrement du socialisme russo-soviétique, là. Avec, si vous voulez, maintenant, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Kyrgyzstan, tout ça, qui ont été soi-disant russifiés. Et tout ça est en changement. J'ai été beaucoup de fois en Chine. Donc, si vous allez en Chine, j'ai été beaucoup de fois dans ma vie en Inde. Et nous, les anthropologues, on est sur le terrain pendant longtemps. Donc, on voit les processus à la fois minuscules, mais dans ces processus minuscules, on peut voir des grands processus sociaux. Ceux qui ne font pas de terrain, les journalistes, moi, j'en ai rien à foutre. Ils viennent couvrir l'événement. Couvrir un événement, ils ne comprennent même pas l'événement. Parce que si on ne sait pas ce que c'est que l'islam, si on ne savait pas ce qu'il y avait des chiites et des sunnites, je ne vois pas comment on peut comprendre. Donc la première chose que vous devez comprendre, c'est qu'il faut connaître l'histoire, beaucoup d'histoire. Prendre du recul, parce que le passé n'est pas mort. Partout où j'étais, et regardez actuellement ce qui se passe en Chine, il y a un néo-confucianisme qui se développe partout. D'ailleurs, on ne parle pas d'autre chose maintenant que de l'Institut Confucius à Paris, à Los Angeles, partout. Les Allemands, c'est le Goethe-Institut, non? Alors, qu'est-ce qui se passait il y a 30 ans? Du temps de Mao et avant, le type qui avait foutu la merde, c'était Confucius, qui avait développé un conservatisme et que la Chine, qui était au premier rang des nations, a été battue et dépassée par l'Occident. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça veut dire dans les peuples aujourd'hui, l'idée que on va pouvoir continuer à se moderniser maintenant sans s'occidentaliser. Vous comprenez ce que je vous dis? Néo-confucianisme en Chine. Vous allez en Inde. L'Inde de Nehru, séparer le politique du religieux. Vous vous rendez compte, dans un pays de caste profondément religieux, Nehru, à la différence de ses prédécesseurs, il faut l'indépendance, mais il fait une constitution de type britannique, dans laquelle on sépare la gestion de l'État et du pouvoir politique de la religion. Vous vous rendez compte? Or, aujourd'hui, Modi, le mec qui est là, l'Inde éternelle, la terre de l'Inde, le retour à l'hindouisme, et donc un grand effort pour re-religieuser, si on peut dire, l'État. Vous comprenez? Alors qu'il y a 120 millions de musulmans en Inde, encore 120 millions, minorité, mais bon. Donc c'est ça le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, dans toute mon expérience de beaucoup d'années sur le terrain, et différents terrains, c'est un monde dans lequel l'Occident ne sera plus hégémonique. C'est terminé de gérer le tiers ou les deux tiers du monde. on aura toujours un hégémone, mais il y aura plusieurs hégémones. Plusieurs hégémones. Donc les rapports de force et d'intérêt vont beaucoup changer. La configuration mondiale dans laquelle vous allez vivre, elle est en train de changer complètement. Complètement. Ça ne veut pas dire que l'Occident va disparaître. Il faut peut-être se détromper. Détrompez-vous, je parle de trompe, bien sûr. Donc, si vous voulez, première chose, connaître de l'histoire et de la culture, mais en profondeur, pas des résumés et pas du journalisme. Alors, deuxième chose, il faut aller sur le terrain. Le terrain, c'est quoi? Alors, soit c'est l'anthropologue, mais nous, on reste 2 ans, 3 ans. C'est pas pareil. Je vous expliquerai la méthode anthropologique tout à l'heure. Sociologue, c'est pas pareil comme boulot, parce que c'est des enquêtes menées souvent par des étudiants, etc. C'est des enquêtes sur 10 000 personnes ou 22 000 personnes. Ouais, on capte des phénomènes globaux par la statistique, mais on connaît pas le mécanisme de production. On connaît pas. Pour ça, il faut aller dedans. Et la troisième science nécessaire, je vous parle du triangle d'avant-garde maintenant pour les sciences sociales, c'est l'histoire, anthropologie, sociologie, et le troisième côté, c'est l'économie. Pourquoi ? Parce que pour la première fois dans l'histoire humaine, un système économique, le système capitaliste, est devenu mondial. Brodel parlait d'économie monde, si tu te souviens. Économie monde, c'était l'Europe qui démarre au XVIe siècle. Et regardez la préhistoire de l'anthropologie, c'est quoi? La préhistoire de l'anthropologie, ça démarre avec la découverte de l'Amérique et tout ce que vous voulez, et toutes les colonisations. Là, les Européens se trouvent devant des centaines de sociétés où il n'y a pas d'écriture. Il faut gérer. Gérer, il faut christianiser, il faut dominer. Donc, on a des gars qui apprennent les langues locales. Les intérêts des missionnaires, c'est évidemment d'éradiquer les mauvaises religions, pour mettre le christianisme. Hein. Mais il y a des missionnaires qui ont écrit des choses remarquables. Donc, il y a une préhistoire des sciences sociales. Il ne faut pas cracher là-dessus, il faut lire les textes. Il faut savoir que les types qui écrivaient un rapport pour le roi d'Espagne, ils avaient un intérêt, non ? Ils avaient un intérêt. Mais on est capable de décrypter quand même. Ça, c'est la préhistoire. Et c'est au XIXe siècle que vous voyez que la sociologie apparaît, le droit comparé. Pas seulement le droit canonique, ni le droit antique, latin, qui est magnifique, mais le droit comparé avec les coutumes et les mœurs des Indiens et tout ça. Donc, si vous voulez, c'est au XIXe siècle que se constitue l'éventail des sciences sociales et humaines. Avant, dans les universités, quand j'étais jeune, il y avait quoi ? Les sciences humaines, c'est la littérature, le latin, le grec. Littérature, c'était surtout de la poésie, les poésies françaises. Et la linguistique n'était même pas dans les universités quand j'étais jeune. La linguistique, c'est comment les gens parlent. Pas comment les poètes ou les romanciers écrivent, mais comment les gens parlent. Ça n'existait même pas. Donc, il a fallu créer ça. Donc, vous voyez, ou bien les sciences administratives et politiques, political sciences, ça n'existait pas il y a 50 ans. Alors maintenant, il y a Sciences Po, etc., il y a l'ENA et tout ça. Donc tout ça s'est constitué, si vous voulez, à la fin du 19e, milieu du 19e, et puis après au 20e. Mais ça s'est constitué dans l'expansion et la domination européenne, parce que les Américains interviennent dans la domination qu'au début du 20e siècle. Hein. Avant, c'était l'Europe, quoi. Et la confrontation française, anglaise et allemande, et tout ça, c'était au cœur. Donc, le triangle d'or aujourd'hui, c'est cette discipline. Maintenant, toutes les autres disciplines sont nécessaires. Hein, je vous parle d'un triangle qui s'enfonce, mais vous ne pouvez pas vous priver du droit, vous ne pouvez pas vous priver de la géographie, etc. Alors, je vais vous donner un peu un exemple très simple. Un anthropologue, par exemple, va rester 2 ans comme moi, ou moi je suis resté 3 ans, c'était, puis je suis retourné souvent. Donc, qu'est-ce que vous faites ? D'abord, il faut vous faire accepter par les gens. Vous arrivez chez eux, on ne vous a pas invité. Hein ? On ne vous a pas invité. Et vous dites, voilà, vous arrivez la tête enfarinée, là. Je voudrais bien rester chez vous, là. J'ai pas un petit endroit pour que je me couche ce soir, non ? Vous arrivez avec votre sac de couchage en plus, hein. C'est un peu Indiana Jones, non ? Enfin. Alors, après, vous allez vous expliquer pourquoi être là. Ah, d'ailleurs, les barouillards m'ont demandé, au bout d'un mois, pourquoi j'étais là. Je m'étais mis quelque part dans la jungle, sur un sentier. J'étais tout seul. Alors, j'étais l'attraction. Tous les enfants des villages venaient voir un blanc. Alors, quand j'allais pisser, tout ça, c'était très gênant. Putain, c'était dur. Alors, j'aurais demandé au bout d'un moment, mais est-ce que vous pouvez dire à vos papas, maman, j'avais appris dans un laboratoire de la linguistique le pidgin mélanésien, etc. J'avais passé par l'Australie, où il y avait un très grand laboratoire de linguistique pour plusieurs langues, pour beaucoup de langues, et donc je me démerdais au bout d'un mois à peu près, quoi. Et alors, au bout d'un mois, il y a des hommes qui sont venus, 3 hommes, et ils m'ont dit « Tu as dit à nos enfants que tu voulais vivre avec nous, eh bien on va te trouver un endroit. » Donc c'était des terrasses jusqu'à 2000 mètres là. Alors ils m'ont emmené en dessous du village dans un marais, c'était de la merde. Alors j'aurais dit « Non, c'est pas possible. » Alors ils m'ont fait traverser le village pour aller au-dessus du village dans un marais, c'était de la merde. Alors j'aurais dit non, c'est pas possible. Donc finalement ils m'ont dit mais où tu veux aller ? Alors évidemment, je suis pas con, je suis un peu rusé quoi. Évidemment je suis descendu avec eux et j'ai dit ici, mais ici c'était au milieu du village, au milieu du village. Donc oui, ça, et après j'ai commencé à construire une maison. À l'université, ni en Cagne, on sait construire des maisons, faire des chiottes et tout, c'est à faire une chaise, c'est très compliqué, je vous assure. C'est très compliqué. Bon, passons là-dessus. Alors, je vais vous faire voir, par exemple, comment on fait. Il faut être accepté par les gens. Au début, il ne faut pas être intelligent. Il faut simplement faire comme eux, se lever le matin, voir ce qu'ils font, partir dans les champs, si on accepte. C'est ce qu'on appelle l'observation participante. Mais ça veut dire quoi, participer ? Participer à quoi ? Participer jusqu'où ? Participer comment ? Vous comprenez les questions ? Ça, c'est de la théorie, ce que je vous fais. Hein. C'est des principes de travail. Et ça, tous les jours, les gens, ils se lèvent, ils bossent, ils vont pisser, tout ça. C'est vraiment pas être intelligent pour observer. Hein. Mais attention. Qu'est-ce que c'est qu'un fait ? Un fait. Regardez, qu'est-ce que c'est des faits sociaux ? Bien, il y a des faits sociaux répétitifs. Tous les jours, vous-même, vous vous levez, etc. Ça, observer ça, c'est pas difficile. Okay ? Après, vous avez des faits qu'on peut prévoir et qui vont apparaître. Les gens sont malades. Il y a un mort dans le village. Est-ce qu'on va vous inviter à aller près du mort pour le moment d'enterrement ? Est-ce que vous allez comprendre ce que les gens font dans le rituel ? Vous comprenez ? Il faut d'abord savoir un peu la langue. Il faut que les types ils vous invitent quand même. Vous n'allez pas vous forcer, quoi. Donc ça, c'est un deuxième type d'événement qu'il y a partout dans toute société. C'est un invariant des sociétés, c'est-à-dire des faits prévisibles. Mais quand ? Mais ça, c'est des faits individuels, la mort, la maladie, un mec qui bat sa femme, les barouillas étaient violents, de temps en temps il y avait une femme qui était même tuée, donc c'était dur. Bon, passons. Et le troisième type d'événement, c'est des événements qui concernent toute la société. Les rituels, tous les 3 ans, ça dure des semaines, ça embarque tous les jeunes. Tous les garçons sont séparés à l'âge de 9-10 ans des femmes et de leurs mères et de leurs sœurs. Ils rentrent dans des maisons d'initiation pour 12 ans. Et ils sortent à 20 ans, 21 ans. Théoriquement, ils ne doivent pas avoir de femmes pendant tout ce temps-là. Bon. Ils passent 4 stades d'initiation. Et ils vont dans la maison des hommes, etc. Ça, c'est des événements qui concernent le tout. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'on a comme événement en France qui vous concerne tous? Le 14 juillet, par exemple. Vous n'avez jamais vu, non? Par exemple, il y a un type qui s'appelle Sarkozy, non? Alors, il est là, sur la tribune, les Champs-Élysées. Vous avez les petits soldats qui bougent. Et on fait un discours, quoi. Donc, la France, elle est présente tout entière, vous comprenez? Elle est même représentée, paraît-il, par son président, non? Je blague pas, c'est ce que je ne fais qu'une analyse des faits sociaux. Non. Et puis vous avez donc là le tout est présent et la souveraineté du peuple est représentée aussi. Vous comprenez? Donc là c'est des événements qui vont se faire en France tous les ans et qui vont manifester l'identité française, si elle n'est pas contestée d'ailleurs. Bon, donc il y a partout dans les sociétés des phénomènes sociaux que vous pouvez observer et qui représentent ou mobilisent le tout comme tout. Ok? Bon, là encore, faut pas être trop, c'est pas trop compliqué, quoi. Mais après, si vous avez acquis la confiance des gens, vous pouvez commencer, ce qu'oublient d'ailleurs mes collègues anthropologues, beaucoup d'autres, beaucoup sont un peu... etc. Bon, l'observation systématique. Mais ça, il faut du temps. Beaucoup de temps. Vous commencez une enquête de parenté. Non, c'est-à-dire, vous allez de maison en maison. Donc, c'est à la fois de la démographie. Qui habite avec qui? Et pourquoi ils sont ensemble, mariés, mais pas les frères et les sœurs et tout? Donc vous faites une double enquête systématique de démographie des villages et de rapport de parenté. Vous comprenez? Bon. Ça demande 1 an pour 2000 personnes, mes gars. 6 heures par jour. Et il faut que les gens travaillent avec vous. Et moi, je faisais des... Il y a des d'abord, sur le terrain, vous êtes un élève des gens. C'était eux mes maîtres. C'est eux qui m'apprenaient ce qu'ils étaient. Vous comprenez? Ils m'apprenaient ce qu'ils étaient. Ils voyaient que j'étais incapable de comprendre beaucoup de choses. Je me souviens très bien que je posais toujours la question, mais comment vous, les Barouillas, vous existez? Quand est-ce que vous avez commencé à exister? Parce que je savais vaguement que la tribu n'existait pas 2 siècles avant, qu'elle était une formation. Et alors, il y a un jour, il y a un type qui me dit, mais Maurice, ça fait 10 fois qu'on t'a expliqué, tu comprends rien, t'es un con, quoi. On te l'a dit. Et en fait, il me l'avait dit, le type. Il m'avait dit, c'était dans mes notes, après j'ai retrouvé que j'avais pris les notes. Donc, je prenais des notes sans comprendre ce que je faisais, d'un certain point de vue, vous comprenez? Qu'est-ce qu'il m'avait dit? Il m'avait parlé en barouilla, il m'a dit, tu sais, Maurice, c'est quand... Alors, je raconte l'anecdote. On m'appelait Mauricello Guayacapo, donc Maurice le Rouge. Pas pour mes opinions politiques, qui étaient inconnues. D'ailleurs, ils n'auraient pas compris. Mais pour les coups de soleil. Hein, j'étais un blanc qui avait des coups de soleil, quoi. C'est tout. Donc, Guayacapo, Mauricello. Donc. Il dit, on t'a expliqué tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il m'avait dit? Tu vois, Maurice, c'est quand on a fait nous-mêmes notre chimia qu'on est devenu nous-mêmes. Alors, si vous ne connaissez pas le mot chimia, que c'est le mât central de la grande maison d'initiation, il m'a parlé dans sa langue, mais c'était théorique. Mais dans les catégories, dans ces catégories mentales et linguistiques, vous comprenez ? Le type m'avait dit, c'est quand on a été capable de, d'initier nous-mêmes nos enfants, qu'on a été les Barouya. En plus, le mot Barouya, c'est le nom du clan qui a donné son nom à la tribu et qui est le clan du premier initiateur, tu vois ? Donc il y a une cohérence là-dedans, il y a une cohérence. Donc vous voyez, je n'avais rien compris. Mais quand j'ai pu comprendre qu'il me parlait en disant « c'est quand on a fait la chimie à Maurice », j'ai compris tout de suite après. J'étais capable, mais il m'a mis 2 ans pour comprendre. Pourtant je ne suis pas con, hein, mais bon. Donc c'est ça qui est le terrain. Alors qu'il commence donc, ce que j'appelle moi, non pas l'observation participante, blabla dont je vous ai parlé, là, les 3 étapes des faits sociaux, mais l'observation systématique, la parenté, la démographie, les champs, parce que c'est des agriculteurs et des chasseurs, aller travailler avec les gars dans les champs, pas travailler nous-mêmes, il ne faut pas se faire d'illusion que moi, blanc, j'allais travailler, hein. J'allais accompagner les types pour voir ce qu'ils faisaient, et ils m'expliquaient ce qu'ils faisaient. Bon, voilà ce qu'on fait là, et j'ai mesuré pendant 320 jours les champs avec des maîtres, etc. J'avais appris, avant de partir à l'École nationale de géographie, comment utiliser un compas, une boussole, et trop un merdier épouvantable. Mais bon, je l'ai fait, quoi. Donc j'ai pu le faire. Mais après, quand vous rentrez, quand les types vous laissent entrer dans leur grand champ, avec les marques où il y a telle femme, telle femme, telle femme, elle cultive ça. Le monde extérieur existe, mes enfants. Je vous dis ça parce qu'il y a des philosophes qui avaient pensé que le monde extérieur n'existait pas, mais il existe et je vais l'éteindre. Est-ce qu'on peut éteindre le monde ? C'est pas vrai. Bon. Alors, donc, regardez, je rentre dans un champ, je demande de l'aide pour mesurer et transformer des distances obliques en distances horizontales pour faire des cartes. Vous voyez ? C'est ça le principe de la géographie, non ? Donc il faut apprendre des métiers quand même. Et alors les types m'engueulent tout de suite, ils disent « Mais Maurice, tu marches là, tu n'as pas vu, tu as marché là. C'est une plante magique. » En général, les plantes ne parlent pas, sauf pour les mecs un peu illuminés, mais je n'étais pas illuminé, donc j'apprenais tout le temps. Vous comprenez ? J'apprenais, et puis après... Ils ont vu l'intérêt que j'avais pour le maïs et tout ce que vous voulez, les patates douces et tout. Puis après, c'était, mais qui a créé, qui a défriché ici la jungle en premier ? Alors, des histoires. Là. Ah oui, mais là, va pas là, là, il y a eu un meurtre. Après, c'était plus seulement des relevés fonciers, là. C'était l'histoire du pays, c'était les conflits entre lignages, c'était la sorcellerie. Vous vous rendez compte ? Donc là, qu'est-ce que je ramassais là ? Et alors qu'après, je me faisais expliquer, tu vois ? Après, bon, après, j'ai été dans les grandes initiations, j'ai été en partie initié, il hein, ne faut pas déconner. Hein. Mais enfin, ils ne m'ont pas percé le nez, vous comprenez ? Habituellement, ils percent le nez, ils mettent des trucs dedans. Ils m'ont dit que si, quand tu vas retourner chez les Blancs, tu vas avoir des ennuis, donc on ne te perce pas le nez. Donc, sur quoi j'aurais des trucs partout, les piercings aujourd'hui devant vous, mais pas du tout les mêmes piercings que vous connaissez à Paris, là, ça c'était autre chose. Là. Par exemple, ils prenaient toujours mes bics et se les foutaient dans le nez. Là. Non, mais c'est terrible, en disant, ils trouvaient que c'était bien, c'était lisse et tout. Là. J'ai manqué ma fortune, les gars, hein, parce que si j'avais pris une photo d'un barouilla avec... Bic dans le nez, je vendais ça à Bic qui foutait ça sur les autobus de Paris, 1 million. Mais la déontologie interdit ce genre de manip, ça c'est pour Paris Match, c'est pour autre chose. Ça. Mais c'était toujours possible d'humilier les gens comme ça. Hein? Bon. Alors donc après vous faites les grandes initiations. Alors là vous êtes dedans pendant des semaines et tout, et vous apprenez ce que c'est que la transformation d'un jeune gars. Mais j'ai été aussi dans... Je suis le seul homme à avoir été dans les initiations féminines, mes enfants, totalement interdites aux hommes. Je vous raconterai tout à l'heure. Mais quand je suis revenu de 2 jours, j'avais 900 femmes avec moi. Vous vous rendez compte, tout seul avec 900 femmes, une nuit, une journée, une nuit, c'est beaucoup. Hein. Bon. Quand je suis revenu dans le village, 2 guerriers sont arrivés, des mecs, des copains à moi que je connaissais bien. Moi, j'étais crevé, j'étais en train de dormir. Ils m'ont dit... Maurice, les vieux, les hommes nous envoient te dire que tu retournes chez toi maintenant. T'es un homme, t'as été chez les femmes. T'as violé la loi. Puis je dis quand même, c'est les femmes qui m'ont invité à y aller. Je me suis pas forcé. Ils sont venus me chercher, 2 femmes, Djirinak et tout. Donc je dis, ok, j'ai fait mon boulot, je paye pour ça, non ? Et alors, à ce moment-là, ils me disent, quand ils ont commencé à voir mon angoisse, « Maurice, si tu veux te soumettre à un rituel, peut-être ça va aller. » Bon, je dis, ok. Alors, va dormir maintenant. Okay. Je vais me recoucher, j'étais crevé 3 heures après, les 2 mecs arrivent comme ça, avec 2 oiseaux. On m'appelle, je sors de ma hutte, là, déshabille-toi. Donc, à poil. Hop. Et ils ont commencé à me brûler les oiseaux sur mon corps, partout. Mon visage, les aisselles, mon sexe, partout. Ils ont dit des trucs que j'ai pas compris. Et maintenant, tu peux revivre avec nous. Va coucher. Okay. Je n'avais pas compris ce qu'il faisait. Et maintenant, vous allez comprendre que, comment j'ai compris. 6 mois plus tard, donc, hein, je vois une femme que je connaissais qui revenait d'accoucher. Donc, elle était 8 jours dans la maison d'accouchement, là en bas. Elle était peinte de tout ce qu'il fallait. Elle avait le bébé comme ça. Donc, je la connaissais. Je fais comme vous feriez, vous. Alors, ça va? Il est beau ton bébé, enfin toutes les conneries qu'on dit d'habitude. Et donc, je ne sais pas pourquoi, je l'accompagne jusqu'à sa maison, avec le bébé. Hein, et je vois que sur le seuil de la maison, de la porte, il y a un oiseau. Elle ne me dit rien et elle s'auto-enfume. Vous comprenez ? Donc, qu'est-ce qu'ils avaient fait, les gars, les barouillards ? Ils m'ont traité comme une femme qui revenait de couche, puisque je revenais de chez les femmes. Et une femme qui revient pour coucher avec son mec et vivre, reprendre la vie commune avec un homme, elle doit se purifier en brûlant ces trucs-là. Hein ? Donc, ils ont trouvé dans leur culture... C'est un cadeau fantastique, regardez, un cadeau. Ils ont trouvé dans la culture le moyen de me dire « t'as violé la loi, vieux ». Et ensuite, ils m'ont traité comme une femme revenant de chez les femmes et devant faire le rituel, mais ils l'ont fait à ma place, puisque je ne savais pas le faire, moi. Comme la femme se le fait à elle-même. Et quand elle se le fait à elle-même, elle repart dans le monde où il y a des hommes. Vous comprenez ? Ça, c'est un cadeau, mes enfants, ça. C'est un cadeau, ça veut dire que je n'étais pas considéré comme un suppôt de l'impérialisme capitaliste occidental, comme il y a des cons de collègues qui pensent que les anthropologues sont tous des agents de l'étranger. Évidemment, s'il reste 15 jours, mais pas quand on reste 3 mois, 3 ans et tout ça, vous comprenez ? Là, c'est pas pareil, là. Donc on peut ensuite témoigner... Dans ma société, je peux témoigner de ce que c'est que la transformation d'une petite société colonisée, christianisée. Et je vous ai dit, le prochain livre qui va sortir, non ? Alors, donc, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Avant de partir, après, je sais pas, la dernière année où je suis allé sur le terrain, il y a un groupe de jeunes gens, de femmes, tout ça, qui viennent me voir. Maurice, tu ne peux pas écrire sur un cahier notre nom, on veut changer de nom. Et pourquoi vous vouliez changer de nom? Parce qu'on veut se faire baptiser. Quand il y aura des pasteurs qui vont venir ici, on va se faire baptiser. Donc on veut prendre un prénom. Bon, ok. J'ai dit, comment tu veux t'appeler, toi? Simon. Et toi, comment tu t'appelles? Mary. Et toi, comment tu t'appelles? Anna. Oh, putain, c'était la Bible. Bon, je marque, hein, c'est leur vœu, c'est leur décision. Moi, et à la fin, j'ai dit, mais pourquoi? Vous vous rendez compte que, tu vois, tu t'appelles Guataillé, quand tu t'appelles Guataillé, je sais que tu es du clan Andavakia. Mais si tu t'appelles John, et dans l'autre clan, il y a un John, comme les noms sont par clan, vous allez faire quelque chose avec votre culture, j'ai dit. Ça fait rien, Maurice. On veut devenir moderne.
Pardon ?
Le gars qui était là, il était bien. Quoi. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que... Écoutez bien, hein. Ce que je vais vous dire, c'est une phrase qui vaut bien à tous les profs de Sorbonne. Hein. Il dit, qu'est-ce que c'est qu'être moderne, dis-moi. Bon, Maurice, c'est très simple. Être moderne, c'est suivre Jésus et faire du business. Vous avez compris ? Suivre Jésus, c'est-à-dire devenir occidental par la religion, faire du business. Donc, qu'est-ce qu'ils font les Barouillas maintenant? Ils produisent du café, qui se vend pas mal d'ailleurs, et ils ne boivent pas de café. Hein? Ils produisent du café qu'ils ne boivent pas, quoi. Donc, ils sont dans le business. Il y a même un Barouilla qui est maintenant venu à Francfort, vous vous rendez compte? Il est venu à Francfort, à la foire, au café, pour vanter le café Barouilla. Chapeau, hein? Chapeau quand même, moi j'ai rien à dire, c'est eux qui choisissent, hein. C'est eux qui choisissent leur vie. Je ne suis pas Che Guevara pour changer le monde, moi. Mais en même temps, j'ai toujours discuté avec eux, hein. J'ai toujours discuté avec eux sur qui j'étais, qui ils étaient, etc. Alors donc, c'est ça, là. Je vous fais là de la micro-sociologie, là, hein. Anthropologie, micro-sociologie. Mais à travers ça, vous voyez... à travers un micro-exemple, enfin micro-société, des phénomènes globaux. Des phénomènes globaux. Ils sont présents sous la forme locale. C'est du, comme disent maintenant les économistes, c'est du local, global-local, global, on ne parle plus maintenant. Si vous êtes branché, on ne parle plus de global, on dit local. Sortez dans le monde, dites local, vous allez voir. Donc c'est comme ça, alors. Donc voilà un peu. Alors je vous fais voir maintenant comment on peut trouver, tiens, ça va vous amuser, j'ai écrit un énorme livre sur la parenté, pas celui-là, Métamorphose de la parenté, qui est aussi en livre de poche. Et je vais vous montrer, pour ceux qui sont... vous savez le latin quand même, non? Vous parlez encore tous latin en classe, non? Et... parler grec, j'espère. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Alors, tiens. Alors, regardez comment on fait l'anthropologie. Vous avez bien remarqué que ça, c'est un homme et une femme. Vous avez remarqué que ça a une légère incidence sexuelle, non? Non? Un homme, vous voyez comment ça pointe, et une femme, comment ça pointe pas, non? Vous avez déjà vu la différence? Bon, alors, regardez ça. Regardez ça. Regardez, on va faire ça, et on va faire ça. Voilà. OK ? Alors, si je suis à latin, hein, dans l'Antiquité latine, comment on appelle ça ? C'est pas difficile, non ? Pater, non ? Ça vous fait marrer, non ? Pater, non ? Comment on appelle cette dame-là ? Mater. Comment on appelait à Rome la sœur d'une mère ? Mater Terra. Mater Terra. Vous avez bien vu que Mater Terra s'est construit sur Mater, non? Petit à petit, je vais vous amener jusqu'à la merveille structuraliste. Il ne faut pas s'exciter, hein, ce n'est pas si difficile que ça.
Et lui, les frères de père s'appellent Patrous.
Oui, bien que c'est construit comme etc., non bon.
Comment s'appelle ce mec-là, qui est un oncle maternel? Ça avait l'air de primer dur. Avonculus. Avonculus. Et d'ailleurs, si vous savez le latin, avus, c'est le grand-père. Donc, l'oncle, c'est un petit grand-père.
Si vous savez le français, vous savez le mot aïeux. Nos aïeux, les Français. Hein? Bon, ben, c'est la transformation du mot avus, ok?
Et ici, vous avez Anita. Bon.
Ceci, ce système latin se retrouve aujourd'hui dans les tribus du Soudan. On appelle un système soudanais. À la fin de la République romaine, il se passe quelque chose dont vous allez voir la transformation structurale.
Vous avez Patrus, il gicle. Avonculus prend les deux positions. Ok ?
Si Avonculus gicle, si
Patrus gicle,
Mater Terra gicle aussi. Ok ?
Et c'est Amita qui prend les deux positions.
Ok ? Et vous arrivez au système actuel français. Regardez.
En anglais, Amita devient aunt,
la tante.
Avonculus, oncle. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? Ici, on savait très bien, dans ce système ancien, Patrus, c'est du côté du père. Aujourd'hui, on a le mot oncle et on ne peut plus dire, il faut dire c'est un oncle du côté de mon père ou c'est un oncle du côté de ma mère. Ok ? Avant, il y avait des termes différents pour tout ça. Maintenant, c'est le mot cousin. Et on dit cousin du côté de mon père. Donc le système a changé et c'est un système français, allemand. C'est un peu compliqué, là, je vais faire simple. Et c'est notre structure de système, c'est la même que celle des Inuits. Vous comprenez ? Ça veut dire que l'humanité invente des systèmes à des époques différentes, dans des sociétés différentes, sans contact géographique, sans contact historique. C'est-à-dire que les mêmes structures peuvent apparaître. Et si je pouvais tout expliquer, j'aurais le prix Nobel. Hein? Parce que ça, alors donc vous voyez qu'ici, si vous touchez à un élément, vous touchez à l'autre. À partir de ce moment-là, vous transformez un système soudanais en un système esquimau. Le système esquimau, c'est le système français. OK? Bon. Donc vous voyez, il faut travailler un peu du cerveau quand même, hein, sur le terrain. Quand vous avez ça, moi je peux vous faire un système. Alors, moi je vivais dans un autre système, tiens. Je vivais chez les barouillards, qu'est-ce que j'arrive ? Je fais mon petite enquête et je me trouve devant un système en pleine Nouvelle-Guinée, Iroquois. Vous savez ce que c'était que les Iroquois, les Indiens d'Amérique du Nord, les Iroquois, les Hurons, les cow-boys et tout, non ? Bon.
Qu'est-ce que c'est que le système ?
Alors là, si vous voulez, moi je connais ce que j'ai vécu là-dedans. Hein. Beaucoup. Alors, regardez. On va faire ça, tiens. On va faire ça. Oui, c'est ça. Ouais. OK. Bon.
Dans le système où je vivais pendant 3 ans,
il n'y a pas de mot pour oncle. Tout ça, c'est des pères. OK ? Toutes les sœurs de mère sont des mères. OK ?
Soyez logique.
Si tous ces gens sont des pères,
je n'ai pas qu'un père. Donc la notion de paternité ne correspond pas à la notion occidentale de paternité. Si j'ai plusieurs mères, la notion de maternité n'est pas la même.
Mais si vous avez ça, tous les enfants de mes pères sont mes frères et sœurs. Tous les enfants de mes mères sont mes frères et sœurs.
Donc il n'y a pas de cousin là. OK ? Alors, là où il y a des cousins, c'est là.
Et alors, on appelle ça des cousins croisés. Bon, passons sur le jargon anthropologique. Bon. Alors ici, étant donné que tous ces gens, c'est des frères et sœurs, je ne peux pas épouser ces nanas-là. C'est des germains, des germaines, quoi. OK ? Alors, on sait que moi, je vais trouver une femme. Je suis là. Je vais épouser la fille de mon oncle maternel. OK ? Ou je peux épouser, hop, la fille de la sœur de mon père. Ce sont des cousines croisées épousables. Donc, dans toute société, vous avez, et ça varie, une division entre homme épousable, inépousable, femme épousable, femme inépousable. Et c'est pas seulement une question de l'inceste. Vous pouvez pas accoucher avec, vous pouvez pas épouser votre fille ou votre sœur. C'est pas le cas pour tout. Il y a des sociétés où il faut épouser sa sœur. Mais ça sera un peu long pour vous expliquer tout ça, mais on a jusqu'à 2 heures du matin, donc on a le temps. Et donc voilà, ici vous avez deux structures de parenté. L'une, c'est une structure soudanaise, avec tous les termes sont désignés, toutes les positions de parenté sont désignées par un terme différent. Vous comprenez ? Ici, les positions. Après, vous effacez, vous avez les positions de parenté. Plusieurs qui sont sous un seul terme, ok ? Et ici, c'est pareil. Mais là, c'est, vous voyez la transformation de la notion de père et de mère ? Parce que tout, ce type-là, là, le frère de mon père, il ne couche pas avec ma mère, quand même. Alors, qu'est-ce que vous avez là ? Une parenté sociale. Et ce n'est pas une parenté biologique. Et ils ne cherchent pas, eux, à faire des tests de, de paternité avec le sperme. Et donc, vous voyez que si mon père, il meurt, j'ai encore deux, trois pères, là. Vous avez compris la sécurité sociale, là ? Mon père meurt, celui qui couche avec ma mère. Bon, j'en ai encore deux, trois, là. C'est pas comme chez nous. Bon, en plus, j'ai pas de sœur. Parce que ça, c'est l'échange des femmes. Hein. Bon, là où je vivais, c'était strict. Bon, j'ai pas de sœur, mais... J'ai toutes les sœurs, là. J'ai plein de sœurs, là. Donc, je vais les demander à ce monsieur, qui est mon père, une de ses filles, pour pouvoir l'échanger. Vous comprenez ? Ouais, vous n'êtes pas pour l'échanger, femme, vous. Hein, c'est pas... Je vois des mines sombres devant vous, là, devant moi. Bon. Alors, ici, j'ai déjà trois systèmes de parenté, avec des structures... Donc, j'ai compressé les structures, là. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mes enfants. Hein. On a fait, nous, les anthropologues, la cartographie des systèmes de parenté. Et il y a à peu près 10 000 sociétés dans le monde. Des petites, de 100 personnes, en Amazonie, 40 personnes qui restent. Et puis, vous avez les Han chinois, c'est-à-dire 1 milliard, plus les minorités nationales de Chine, hein, tibéto-birmane et tout. Alors, c'est pas comparable, des sociétés comme ça. Mais quand nous, on regarde, on a fait la cartographie, il n'y a pas plus de 7 systèmes de parenté. Qu'est-ce que c'est, du point de vue scientifique ? Quand vous réduisez la diversité à des ensembles opérationnels, structurés, vous comprenez ? Vous réduisez. Mais comment on peut faire, chacun qui, dans sa société, on a le nez dedans ? Si on ne sort pas de sa société pour faire du comparatif, on ne peut pas le comprendre. On ne peut pas comprendre. Bon, je vais vous faire maintenant... Alors, vous avez vu une démarche maintenant d'analyse et on voit le caractère systématique des relations. Vous voyez ? Voilà, bon. Alors maintenant, je vais vous faire une autre démonstration pour que vous puissiez bien dormir, quoi, avoir... Sur la mort, c'est bien, non ? Alors, vous voyez la diversité des religions ? Hein ? Faisons un tableau grossier. Hein ? Le monothéisme juif, chrétien, musulman, ok ? Et toutes les autres sociétés sont polythéisme, et c'est grossier ce que je dis, hein, parce que les bouddhistes disent que les dieux sont une illusion de, du moi, et le moi est une illusion du moi. Alors vous vous rendez compte, faut aller doucement là. Hein. Bon. C'est pas la même notion de Dieu non plus. Hein. Bon. Alors, polythéisme, hein. Est-ce que je peux mettre le chamanisme? Il y en a encore, moi j'étais en Corée, là, dans des séances de chamanisme. Chez les barouillas aussi, j'étais tout le temps impliqué dans des trucs, là. Quand les chamans soignaient, j'apportais ma pénicilline, j'étais l'assistant, là. Je donnais un coup à boire au mec qui allait mourir et tout, bon, très bien. Vous voyez qu'il faut être pragmatique dans la vie, hein. Il ne faut pas être trop romantique non plus, hein, je vous préviens tout de suite, hein, c'est très dur d'assister à la mort des gens et tout, il ne faut pas flipper le soir. Hein. Alors, regardez, l'autre jour je publie, tu vois, La mort et ses au-delà. Bon, je demande à des profs de Sorbonne, spécialistes de l'islam, spécialistes du bouddhisme et tout, le beau monde, quoi, des professionnels, quoi. Hein. Pas des mondains, quoi. Et là, moi, j'écris mon truc sur les barouillas, la mort chez les barouillas, tout ça. Et on me demande d'écrire, bien sûr, la préface. Alors, regardez. Vraiment, le boulot, tout de suite. Hein. Comment ça marche? Je ne suis pas spécialiste de l'Inde, je ne suis pas spécialiste de la mort en Chine, etc. Mais j'ai 14 spécialistes, enfin, dont moi, quoi, dont 13 plus moi. À partir du moment où je lis les 14, je découvre des invariants que je ne pouvais pas découvrir en ayant le nez dans mon guidon. OK ? Alors, je vais vous donner. Je vois 14... Alors, il y a le bouddhisme, il y a l'islam, il y a l'hindouisme, il y a le christianisme. J'avais j'avais la mort à Rome, la mort à Athènes dans l'Antiquité, donc ce qu'on appelle les religions polyades, c'est-à-dire la religion de la cité, hein, religion politique, civique. J'avais un texte fabuleux sur la mort chez les aborigènes australiens par un ex-assistant à moi qui a vécu 3 ans dans le désert. Il a pu assister à des rituels qui n'ont jamais été observés. Ce qu'on appelle le totem, vous savez, les trucs totémiques. En général, c'est du baratin, parce que les gens n'ont pas vu ce que c'est vraiment. J'avais aussi des barouillas ici. J'avais deux sociétés amazoniennes, passons. Bref. Alors, qu'est-ce que je vois quand je commence à lire les matériaux qui sont différents? Une société différente, un invariant propre à toute religion. Ça, les philosophes, c'est pour vous, là. Un invariant propre à toute religion. Et l'invariant, c'est celui-ci. C'est que dans toutes les religions, la mort n'est pas la fin de la vie. Attendez, les gars. La mort n'est pas la fin. Sans quoi, il n'y aurait pas de religion, les gars. La mort n'est pas la fin de la vie. La mort, c'est le début d'une nouvelle vie. OK ? Alors, qu'est-ce qui se passe là ? Écoutez bien ce que je vous dis. C'est que la mort ne s'oppose pas à la vie, elle s'impose à la naissance. Soyez logique. Hein ? Et la mort, c'est tout, dans toutes les sociétés, c'est un cadavre. Il ne bouge plus, là. Il faut s'en débarrasser, donc, des rites, crémation et tout ça. Avant, comment on traite le mec qui est en train de mourir, et après, le deuil, OK. C'est universel. Ce que je viens de vous dire, c'est un invariant de la pragmatique. Hein. Avant, comment on traite le mourant, il meurt, comment on traite le cadavre. Et après, on porte le deuil 3 mois, 3 ans, ça dépend des sociétés. Et comment, avec les vêtements de deuil, le noir et tout, bon, passons. Et alors, on s'aperçoit, si vous voulez, que dans toutes les sociétés, la mort est une disjonction. C'est la séparation de quelque chose. Alors, pour les chrétiens, c'est l'âme. si je suis bouddhiste, 32 âmes, puisqu'il y avait 32 taches sur le corps du Bouddha. Ok, why not? Ok? Donc, si la mort est une disjonction, la naissance est une conjonction. Ok? Soyez logique. Les gens sont logiques, vous savez, pour construire des mythes. Hein. Donc, il faut comprendre la logique de l'opération mentale. Alors, si la mort est une, si la naissance donc est une conjonction, et l'autre c'est une disjonction. Hop, hop. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si c'est vrai ce que je viens de vous dire, quand un homme et une femme font l'amour, c'est pas suffisant pour faire un enfant. C'est pas suffisant pour faire un enfant. Si vous êtes chrétien, et il y en a certainement ici, qui introduit l'âme dans le corps d'un fœtus? C'est le papa? C'est le maman? C'est la maman? C'est le papa avec son sperme qui fait l'âme d'un enfant? Pas du tout, mes enfants, faites de la théologie. C'est Dieu qui introduit au moment où il le veut dans le fœtus, qui est dans le ventre d'une femme, une âme. Ok? Attention, si vous introduisez une âme, elle se charge aussitôt de quoi? Du péché originel. Non? Que le bébé n'a pas commis, je m'excuse de vous le dire. Hein. Le pauvre vieux, il est encore trop drôle. Alors, si vous êtes, si l'âme qui est introduite par Dieu, elle se souille automatiquement, il faut faire quelque chose, c'est quoi? Le baptême. Le baptême pour nettoyer l'âme, qu'elle soit pure et qu'elle démarre dans la vie avec tous vos péchés. Je dis, chacun d'entre vous commet beaucoup de péchés et il sera jugé pour ses péchés. Ok? Vous avez compris maintenant le destin personnel? Bon, ok. Or, écoutez bien, écoutez bien. Donc, la mort, disjonction. Mais si vous avez disjonction et que ça continue à vivre, logiquement, il y a un séjour des morts. Les mecs, ils ne se baladent pas quand même, non? Après qu'on est mort, là, il faut bien aller quelque part, non? Toutes les philosophies et théologies inventent donc l'idée d'un séjour des morts, n'est-ce pas? Bon. Après, il y a les mauvais morts, les femmes en couche, etc. Bon, passons là-dessus, je ne vais pas vous faire de détails anthropologiques. Hein. Et alors, ce qui était très intéressant, c'est que j'ai vu apparaître un deuxième invariant, mes enfants. Moi, je ne le savais pas. Et c'était il y a 10 ans, et pourtant, je suis un professionnel depuis des années. Je lis des bouquins, etc. Le deuxième invariant, c'est que parmi toutes ces religions, il y en a où, après la mort, il n'y a pas de jugement post-mortem. Vous comprenez? Dans les sociétés tribales, où j'étais chez les Baroya, le mec, il meurt. Alors, je leur demandais toujours, mais dis-moi, où les morts, où ils vont après, là? Ah, il dit, Maurice, tu vois, il y a deux façons. Il y a des morts qui vont dans la terre, il y a un village des morts, là, ils se rassemblent, ils font comme nous, ils vivent comme nous. Et puis, il y a les autres clans, ils vont dans les étoiles. Donc, deux séjours des morts. Hein. Alors, une anecdote, j'étais sur le terrain quand on a marché sur la Lune. Vous vous rendez compte? Alors, bon, ma femme de l'époque, j'avais ma première épouse, c'est pas que j'en avais deux à l'époque, m'envoie Paris Match, qui arrive au bout d'un mois ou deux, je sais pas quoi, et donc, vous avez les scaphandres, là, je sais pas, c'est pas des hommes, c'est des scaphandres qu'on voit marcher sur la Lune, non? Vous avez lu Tintin, quand même, non? Bon, on a marché sur la Lune. Moi, je dis, je reçois ça au courrier, j'étais vachement content. Je dis au Barouya, on a marché sur la Lune. Oh là là, les gars. Mais c'est pas possible, il y a les morts qui sont là-bas et tout. Et après, il me dit, mais dites-moi, alors le grand chaman vient me trouver en disant, Maurice, tu peux pas me dire comment vous arrivez sur la Lune? Pour expliquer comment une fusée arrive sur la Lune, en Barouya, c'est extrêmement difficile. Alors j'ai dit, tu as vu des avions, là, tu as vu des avions, ça atterrit, ben, on a fait un avion qui a des moteurs encore plus puissants et qui permettent d'aller tout droit plutôt que d'aller comme ça. Bon. C'est pas une mauvaise explication, hein, c'est pas... Mais les types étaient affolés, hein, qu'on puisse aller sur la Lune, puisque c'est un lieu pour les morts. Et alors, un jour, le grand chaman m'a dit, tu pourrais pas me dire le secret pour aller sur la Lune? Alors là, j'étais dépassé, parce que je pouvais vraiment pas lui expliquer que... Il pensait que grâce à la magie des Blancs, il allait pouvoir récupérer la magie. C'était plutôt magique que physique, vous voyez ce que je veux dire. Donc on n'était pas là sur la même longueur d'onde. Hein. Bon, pas tout à fait. Alors donc, séjour des morts. Hein. Alors qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez les barouillas, donc pas de jugement post-mortem. Pas de jugement post-mortem. Le mec qui a été vraiment un tueur et tout, s'il n'a pas été puni de son vivant, il est peinard après. Il chasse plus, il est plus malade. Donc, c'est un mini paradis quand même. Hein. Oui, maintenant, si vous êtes juif, si vous êtes chrétien, musulman et tout, putain, c'est pas drôle. Parce qu'on va être jugé après la mort par un dieu des morts, par exemple, l'hindouisme, Yama, le dieu des morts. Et on est jugé pour ce qu'on a fait dans la vie. Et le résultat, c'est que si on a été correct, on va au paradis, mais sinon, en enfer. Alors les catholiques, ils ont inventé l'incroyable purgatoire. Le purgatoire n'est pas dans la Bible ni dans le Nouveau Testament. C'est inventé au XIIIe siècle. Au XIIIe siècle, donc c'est un truc que ni les orthodoxes ni les protestants n'acceptent. Le Goff a fait un livre comme ça, l'historien, sur la naissance du purgatoire. Donc, alors vous voyez que c'est très important ce que je vous dis. Je suis devant un invariant transhistorique et transculturel. La mort n'est pas la fin de la vie. Il y a un philosophe, si on peut dire, qui était empereur de Marc Aurèle, hein, un mec bien, quoi, un stoïcien, qui a écrit un texte que j'ai publié disant que seuls les enfants peuvent penser qu'il existe quelque chose après la mort, mais la mort n'est qu'un problème de la nature. Donc c'est un type sérieux, non? La mort, c'est un phénomène naturel. Les gens ne croient pas à ça. Les gens ne croient pas à ça. La mort n'est pas un phénomène naturel. Dans beaucoup de sociétés, la mort, d'ailleurs, c'est un acte de sorcellerie. Dans beaucoup de sociétés, il y a des mythes dans lesquels la mort, au début, les hommes n'étaient pas vraiment mortels. Est-ce que vous savez un peu le grec, là? Donc, dans l'Antiquité grecque, les hommes, il n'y avait pas de femmes encore, ils vivaient avec les dieux. Ils ne mouraient pas. Ils n'étaient pas immortels comme les dieux, ils étaient non mortels. En plus, ils n'avaient pas à bosser, les mecs. En plus, ils étaient nourris gratuitement, en plus, par les dieux. Et puis, vous avez entendu parler d'un type qui s'appelait Prométhée, non? Non? Avant, c'est un sale gars qui a été volé le feu pour le donner aux hommes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Zeus n'était pas content, là, pas du tout. Et il a puni les humains. Parce qu'en plus, il lui a fait des petites blagues en plus, Prométhée. Donc. Et il nous a envoyé la Cata. La Cata, c'était Pandora, la première femme. C'est une abomination. Donc la première femme a été faite comme une poupée avec les plus beaux corps des belles déesses. Et le frère de Prométhée s'appelait Épiméthée. Pro en face, Épi, etc. Vous avez compris? Mais comme c'était un idiot, quoi, profond, Prométhée lui avait dit, surtout n'ouvre pas la jarre, parce qu'il est tombé amoureux tout de suite. Il a voulu épouser Pandora, et quand Prométhée s'est tiré, il n'a pas résisté à sa femme, vous voyez, les femmes, c'est terrible, il a ouvert la jarre, et depuis, la mort a été introduite. On est obligé de bosser, Et troisièmement, on est obligé de se marier, vous vous rendez compte ? Trois abominations terribles. Trois abominations terribles, non ? C'est la culture grecque antique, n'est-ce pas ? La culture grecque antique. Donc la mort n'était pas naturelle. C'est un accident qui a été créé. Quand j'étais en Nouvelle-Guinée, il y avait des mythes où on disait, il y a une vieille femme qui a fait une connerie, sans quoi ? Bon, ou bien, tu sais, avant, on était comme les serpents. On ne mourait jamais, et comme les serpents, vous voyez, les peaux de serpents sèchent là, ils se défondent leur peau, puis ils ont une nouvelle peau, quoi. Et donc, tu vois, c'est à cause de... Donc l'idée d'une immortalité des hommes était profondément... Donc la mort est refusée, mes enfants, pour des tas de raisons qui sont philosophiques, tout ce que vous voulez, mais la mort est refusée dans la pensée humaine profonde. On ne peut pas accepter que le cadavre ne soit qu'un cadavre. Après, vous pouvez avoir des philosophes et tout ça, des biologistes moléculaires, mais la science n'est pas contagieuse. Les résultats de la science ne sont pas contagieux, mes enfants. Les religions sont contagieuses, mais pas la science. Hein, bon. C'est pas contagieux. Donc ça... les gars, ils vont... les types qui ont trouvé la biologie moléculaire, qui travaillent, il nous apporte des résultats qui bénéficient à toutes les religions. Mais pour être prix Nobel, il ne faut pas introduire Dieu dans les équations, mes enfants. Si vous voulez être prix Nobel, ne mettez pas Dieu, ce n'est pas possible. Vous êtes refoulés. Donc, si vous voulez, vous avez des invariants et des transformations ensuite. Donc, vous avez des schémas qui sont des postulats. Parce que contre-intuitif. Dire que la mort n'est pas la mort, c'est contre-intuitif. Dire que il y a une âme ou 32 âmes qui sortent du corps, personne ne les a vues. Et on construit un imaginaire qui va expliquer le monde, qui donne du sens. Vous comprenez ? Donc la production de sens au-delà du visible est permanente. C'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin sur l'imaginer, l'imaginaire et le symbolique. Alors, vous cassez pas sur le symbolique. Hein. Si vous voulez la définition de symbolique, elle est là. Ça va vous servir pour les dissertes. Le symbolique, c'est produire des signes qui font sens. C'est tout. Et donc, les yeux font sens. Hein. Les yeux, tout. Le corps fait entièrement sens. Au-delà du corps, les mosquées font sens, les églises font sens, ils témoignent d'eux. Donc, le symbolique est partout. Je vous parle une langue, c'est du symbolique, parce que si je parle français, je dis vache. Si je parle anglais, je dis chaos. Et je désigne la même réalité par des mots qui sont symboliques d'une réalité. Vous avez compris ? Donc, vous ne cassez pas sur le symbolique quand vous allez faire vos dissertes. C'est la plus simple des choses à comprendre. Ce n'est pas le cas pour beaucoup de philosophes qui en rajoutent un peu. Voilà. Mais l'imaginaire est plus difficile à comprendre. L'imaginaire. Parce que ce que ne faisait pas Sartre, par exemple, quand j'étais à votre âge, on devait lire l'imaginaire et l'imagination. J'ai toutes mes notes. Alors maintenant, avec mon expérience de tout ça, là, ça marche pas. L'imagination, tu sais, c'est... il se préoccupait de dire que l'image mentale, c'est pas une image dans la pensée, c'est de la pensée qui se fait image. Hop, ok, c'est vrai. Tandis que l'imaginaire, là, j'ai été étonné en relisant l'imaginaire de Sartre, que j'avais lu, que... c'était seulement sur l'art, avec une formule magnifique, celui qui joue Macbeth, il ne réalise pas le scénario, il s'y réalise dans Macbeth. On ne réalise pas le personnage, on s'y réalise dans le personnage. Magnifique formule de Sartre. Quand vous lisez l'imaginaire de Sartre, pas un mot sur la religion, pas un mot sur la politico-religieuse, l'art, ok, c'est bien. Mais étonnant qu'un philosophe oublie qu'il y a de l'imaginé qui n'est pas imaginaire. Que l'imagination, c'est à la fois de l'imaginé non imaginaire et de l'imaginaire, qui est aussi imaginé. Donc la différence n'était pas faite par Sartre. Et donc son analyse phénoménologique était insuffisante. Bon, ça fait rien. Hein. Le livre est intéressant, chacun. Donc voilà. Donc moi, si vous voulez, quand vous bossez dans les sciences sociales, il faut être capable de comprendre des logiques mentales, mais des logiques de fonctionnement des rapports. Qu'est-ce que c'est qu'un rapport ? C'est un faisceau de relations entre deux individus, deux groupes, des relations qui peuvent être toujours complémentaires, mais même opposées. Le rapport père-fils, en fait, le rapport père-fils, du point de vue d'un rapport, c'est un double rapport. C'est le rapport du père au fils et du fils au père. Et c'est le rapport de ces deux relations qui fait un rapport. Vous comprenez ? Donc, et donc, j'ai dit aussi qu'être père ici, quand j'en ai sept, et être père chez moi où j'en ai qu'un, c'est pas pareil non plus. Donc, vous vivez pas le rapport de la même manière, puisque sa structure interne n'est pas la même. C'est pour ça qu'il faut pas cracher dans la soupe. On peut pas travailler dans les sciences sociales sans faire apparaître les structures. Maintenant, on n'est pas obligé d'être structuraliste à la manière de Lévi-Strauss et ses déclarations, mais on ne peut pas analyser une langue sans faire l'analyse de Saussure. Donc, tous les débats post-modernes, ce n'était pas un progrès, sauf quelques points de détail, mais c'est tout. Donc, c'est ça que je vais vous passer comme message, quoi. C'est que des données empiriques, il faut les recueillir et les connaître. Mais du point de vue de l'analyse des données empiriques, il faut avoir un outillage intellectuel, théorique. Et ça demande du temps. Mais en même temps, j'allais dire que ce n'est pas si difficile que ça. Enfin, un peu de temps quand même. Mais moi, j'ai des gens qui viennent me dire « Ah là là, je suis éthiopien, là. Tu ne peux pas m'expliquer mon système de parenté. » J'ai dit « Assieds-toi d'abord, puis on va faire toutes les petits dessins comme ça, puis alors il met les mots dans sa langue, et apparaît réellement une structure, mais si vous n'avez pas appris, vous ne pouvez pas l'avoir, vous comprenez ? Donc c'est ça qui va vous arriver, mes enfants, si vous rentrez dans les sciences sociales, je ne sais pas. C'est une expérience complète. Et alors, pourquoi j'ai appelé ce petit bouquin, là, je ne sais pas quoi, du décentrement là, à l'engagement, pourquoi ? Parce que la connaissance, c'est un travail sur soi, décentré par rapport au fait que je suis occidental, j'ai une culture catholique, je parle plusieurs langues, bien sûr, mais il faut se décentrer. Donc, c'est la suspension du jugement, tu vois, comme chez Husserl. Il faut suspendre son jugement. C'est dur, hein, parce que tout le temps, là, votre éducation qu'on vous a donnée, que vous avez eue, elle remonte. Elle remonte, quoi. Le racisme, tout ça, c'est des structures de notre société. Hein. Ça fait partie de façon virtuelle ou de façon inconsciente. Donc, se décentrer. Comment voulez-vous comprendre que j'ai plusieurs pères ? J'arrive, je suis gentil, j'en ai qu'un. Là, j'en ai cinq. C'est quoi ? C'est des cons ? C'est des non-civilisés ? Alors que le système... C'était le système de, par exemple, latin. Arrêtons, il faut arrêter ça. Donc, décentrement. Et ensuite, engagement. Pourquoi j'ai dit engagement ? Parce que si vous connaissez un peu la parenté et vous entendez discuter sur le mariage pour tous, moi j'ai soutenu Taubira et tout ça, parce que oui, c'était possible en Occident, mais il ne faut jamais aller dire que la reconnaissance du mariage homosexuel va se faire demain dans les pays musulmans. C'est pas possible. Peut-être dans 100 ans. Puis c'est eux qui doivent décider, c'est pas nous. C'est pas nous qui allons faire une croisade pour dire partout dans le monde, les homosexuels doivent se marier parce qu'on se marie à Paris ou au Canada. Il faut arrêter. Bon. Donc vous voyez, donc j'appelle ça l'engagement. Alors moi je peux témoigner de ce que c'est qu'une pratique coloniale. Qu'est-ce que c'est qu'une christianisation ? Hein ? Je peux témoigner, j'ai 20 ans de boulot là-dedans. Donc, Alors c'est ça l'engagement, c'est témoigner de ce que les autres sont, c'est l'altérité, quoi. Et puis s'engager, quoi. C'est ça, s'engager, c'est témoigner, c'est... Et puis si vous voyez dans votre société, parce que quand même, quand j'entends des journalistes parler de la famille, je suis horrifié, quoi. La famille, papa, maman, la bonne et moi. C'est vrai, quoi, ça existe, mais c'est pas... Le phénomène social, c'est un phénomène à comparer tout le temps avec d'autres, et avec une histoire qui a commencé bien avant nous. Bien avant nous. Donc, ce n'est pas une destruction de la famille, c'est une transformation. C'est pour ça que mon bouquin s'appelait « Métamorphose de la parenté ». Métamorphose. Est-ce qu'on aurait... Mais je me souviens, il y a 20 ans, là, je sais pas, il y a 15 ans, là, avant Pécresse, là, parce qu'après j'ai dû témoigner à l'Assemblée nationale, puis après ça a été Taubira et tout, bon, passons. Et ça fait bien 15 ans, là. Des gens m'ont demandé, de vos gouvernements, est-ce qu'il y a des sociétés où il y a des unions homosexuelles et des mariages homosexuels, surtout des unions matrimoniales, hein, pas le fait que des couples... Bon, alors moi, les barouillas sont, étant donné qu'ils sont homosexuels jusqu'au mariage, et après, quand ils se marient, ils n'ont plus le droit de jouer avec les petits garçons et avec la bouche des petits garçons. Je savais ce que c'était qu'une homosexualité rituelle. Mais bon, j'ai regardé un peu dans toutes les bases de données, j'ai pas vu, si vous voulez, dans l'histoire des sociétés que je voyais en Afrique. En Afrique, il y avait des mariages entre deux femmes. Alors, qu'est-ce que c'était qu'un mariage entre deux femmes ? C'est une femme qui n'a pas eu d'enfant avec son mari mort. OK ? Son mari étant mort, elle épouse une femme. OK ? Et elle demande à cette femme, elle lui choisit un amant, et elle demande à cette femme de porter un enfant. Et cet enfant appartient à son mari, à elle qui est mort. Donc c'est une femme, il n'y a pas d'homosexualité entre les deux femmes. C'est un mariage qui permet justement la filiation, vous voyez, le rapport. Bon, moi je vois ça, après je trouve des rapports... entre hommes, des mariages entre hommes, entre les guerriers, des jeunes gars qui... Alors c'est soi-disant un mariage, le type, il sert un peu de domestique pour le guerrier, il n'est pas sodomisé, c'est là que j'ai appris un truc que je ne connaissais pas, les rapports sexuels intercruraux. Hein ? Vous savez ce que c'est ou pas ? Non. Vous êtes complètement nul comme moi. Alors, les relations sexuelles intercrurales, c'est ni la sodomie, ni tout ça, c'est baiser à travers entre les cuisses. Oui ? Entre les hommes, mais entre leurs cuisses. C'est encore une variété locale, ça. Non, moi, je ne la connaissais pas, celle-là. Bon. Alors, donc, là, le type sert de domestique et d'amant, sous cette forme-là, et... Quand le guerrier à 35 ans se marie, il donne les moyens à celui qui était son compagnon d'avoir un compagnon. C'est-à-dire, son copain, là, plus jeune, est devenu plus vieux, il lui file l'argent, pas l'équivalent, pour avoir lui-même un boy qui soit un compagnon de sexe aussi. Il y a pas, là, c'est pas du tout un mariage homosexuel, là, c'est pas pareil du tout. Alors moi je trouvais pas, alors donc je trouvais pas, là, donc j'ai dit ça, il y avait un ministre et tout, là. Et donc j'ai pris le problème à l'envers, j'ai regardé dans notre société européenne ce qui se passait, et c'est là que j'ai vu que la revendication d'homosexuels, moi je suis pas homo du tout, hein, avait un sens dans notre culture, écoutez-moi. J'ai vu que c'était le point de convergence de trois choses. Que, à partir de la fin du XVIIIe siècle, vous avez lu Rousseau et tout, l'enfant, l'enfance. et 1982, je pense, Déclaration universelle des droits de l'enfance. Et l'enfant valorise les parents et est valorisé dans notre société. Dans d'autres sociétés, c'est pas du tout le même statut pour l'enfant. Ok, ça c'est pas être homo ou c'est l'enfant, l'enfance jusqu'à maintenant. Bon. D'ailleurs, chez les homos, c'est le désir d'enfant. Hein, c'est le désir d'enfant. C'est pas se faire un enfant, c'est le désir d'enfant. Bon. Alors, je regarde ça, donc je commence à comprendre qu'il y a un désir d'enfant occidental. Dans les droits de l'homme et tout ça, ok. Après, je me tourne vers la primatologie. J'ai fait un an de primatologie, bon. C'est-à-dire, je fréquentais des bonobos, des chimpanzés, quoi, des mecs vachement sympas, quoi. Et donc, la sexualité, qu'est-ce que j'apprends par les primatologues? Qu'ils sont bisexuels, les gars. Les bonobos sont bisexuels. C'est-à-dire, quand les femelles ne sont pas en rut, eh bien, les mâles se masturbent entre eux. Ou les femelles se frottent la vulve. Alors, si vous voulez, vous prenez les caméras, puis vous aurez toutes les scènes, pas porno du tout, mais qui sont la vie sociale des animaux, vous voyez, la vie sociale des animaux. Donc ça nous donne une idée que vous avez une bisexualité fondamentale chez les primates. Vous comprenez? Et elle est refoulée. Dans les moments où il y a les femelles en rut, c'est l'hétéro. Quand c'est pas, c'est autre chose. Okay. Après, je prends les trucs historiques. La médecine, la psychologie. Et dans la médecine... Je vois, aux États-Unis, on retire des catalogues de maladies, ça n'est plus une maladie. À partir de 1935, aux États-Unis, en Angleterre, etc. Je prends les congrès de psy, et l'homosexualité était considérée comme une perversion. Et ça change comme ça, en France aussi. Donc vous voyez, au XXe siècle, que l'homosexualité, indépendamment des mouvements d'opinion hein, publique, hein, que ce n'est plus une maladie, parce qu'au début du XXe siècle, on forçait les homos à devenir hétéros. C'était d'une violence extrême. Les mecs, ils devenaient fous. Hein. Et après, ce n'est plus une perversion. Perversion, on est aux bordures du péché, là, presque. Alors, vous avez trois disciplines. Médecine, psychologie et primatologie qui, indépendamment des politiques et tout, petit à petit démontrent que on est des bis. Vous comprenez? On est des bis. Et que forcément, dans toutes les sociétés, on refoule parfois complètement, et pas chez les barouillards, et pas dans d'autres sociétés, où là, on fait de l'homosexualité de la politique. Pour que les hommes s'élèvent au-dessus des femmes grâce à l'homosexualité, vous avez bien compris. Par les initiations, les mecs sont entre garçons, les aînés donnent leur sperme aux cadets, ok? Et dès qu'ils sont mariés, ils n'ont plus le droit d'être homo. Donc l'homosexualité, là, c'est pour élever les hommes au-dessus des femmes, vous comprenez? Refaire les garçons sans les femmes. Vous voyez la violence que ça représente sur les femmes? Ce que ça veut dire, ce paradigme, c'est qu'on refait, on donne à des jeunes gens qui n'ont pas le droit de faire l'amour avec des filles, on les demande d'inséminer les petits garçons pour les refaire sans les femmes. Vous voyez ce que ça veut dire comme enjeu politique quand même, non? Donc ça, c'est de l'homosexualité politique, là. Ah, c'est pas la gay pride, hein. C'est pas Paris sur les plateformes, hein. C'est pas ça, hein. Alors donc là c'était intéressant. Alors moi j'arrive, et puis troisième ligne, dans une société démocratique, quand des minorités revendiquent des droits qui n'ôtent aucun droit à la majorité, c'est foutu mes enfants. À terme, c'est reconnu. Si tu prends les trois lignes que je viens de voir, c'est-à-dire l'enfance et la valorisation de l'enfant et de l'enfance, si tu prends le fait que les sciences démontrent une bisexualité et que les gens ne le savent pas. Et si tu prends la démocratie, au bout du compte, il est possible de comprendre que dans des sociétés occidentales, des mecs ont demandé de vivre leur sexualité qui est autre, mais normale, tout en assouvissant comme les autres leur désir d'enfant. Vous avez compris ? La pragmatisation, l'enchaînement. C'est pour ça qu'il est possible que dans nos sociétés, ça soit formulé, et même maintenant par des luttes sociales et politiques reconnues juridiquement. Mais moi, en tant qu'anthropologue, j'avais pas de matériaux à offrir aux politiques. Alors un jour, j'étais avec Valérie Pécresse. Vous connaissez Valérie Pécresse, non ? Alors, je fais une belle conférence comme celle-ci, non ? Peut-être un peu plus académique. Je ne vais pas employer des gros mots et tout. Là. Et donc, la ministre, après, vient me dire, monsieur le professeur, j'ai bien compris tout ce que vous dites. C'est une magnifique conférence. Mais si on suivait vos paroles, on perdrait les élections. Vous avez entendu le discours ? C'était avant la reconnaissance du mariage pour tous. Hein, c'était. Alors j'ai dit, mais madame la ministre, vous êtes là pour avoir une vision de la France dans 20 ans, dans 30 ans, pas pour les prochaines élections dans 3 mois quand même. Donc notre conversation s'est arrêtée là. Mais elle avait dit que c'était bien, ce que je disais, c'était très intéressant. Mais ça avait des conséquences politiques, ce que je disais quand même. Vous avez compris, non ? Bon. Voilà, je crois qu'on va peut-être s'arrêter parce que vous avez l'air fatigué. Vous êtes. Je pourrais vous démontrer des petites choses de plus, hein, méthodologiquement ou autre, mais c'est plutôt vos questions qui m'intéressent maintenant.
On va peut-être applaudir. Pour qu'ils puissent voir là-bas. Pour les questions, vous attendez d'avoir le micro. Allez, que je vais vous donner. Donc,
soyez.
Voilà, Maya. Première question, donc.
Vas-y.
Est-ce que vous pouvez nous parler de l'initiation des jeunes filles ?
Du coup. T'es une curieuse, toi. Hein. Écoute, moi, j'étais avec. L'initiation des jeunes filles, c'est quand elles ont leurs premières règles, tu vois ? Donc, première règle, et on les emmène dans la brousse. Et toutes les femmes, pratiquement des villages, hein, c'est un collectif hein, qui apparaît. D'abord, ça ne se fait pas à chaque fois qu'une fille a ses premières règles. Ils attendent que dans la vallée, les villages, il y ait une dizaine de filles qui ont eu à peu près au même moment. Alors, quand ils en ont une dizaine, ils font une cérémonie. Alors, les femmes, pratiquement de tous les âges, se réunissent. C'est 900 femmes. Bon. Donc, c'est la promotion des jeunes par les vieilles, par les pauvres. Mais en même temps. Bon. Alors, moi, j'arrive conduit par Djirina, qui est une autre femme, là, vers minuit à peu près. Et qu'est-ce qu'il y avait ? Un énorme feu. Les femmes, les jeunes filles tout autour, qui venaient d'avoir leurs règles couvertes de capes d'écorce et suant de façon. Donc c'était déjà symbolique, hein, c'est-à-dire plus elle sue, plus elle change de peau. Hein. C'est une énorme chaleur, ça change de peau. Et autour des jeunes filles de 16-17 ans, là, il y a des vieilles qui sont ménopausées, donc tu vois déjà qu'elles ne peuvent pas faire d'enfants. Et qui arrivait, qui tapait sur les filles, pas de façon très violente, mais enfin quand même, en criant, quoi. Alors moi, je me faisais traduire, parce que c'était compliqué. Donc, qu'est-ce qu'elle... Alors, elle tapait dessus, quoi, etc. En disant, quand ton homme... parce qu'il n'y a pas de choix du... J'ai oublié de vous dire qu'il n'y a pas de choix du conjoint, là. C'est un clan qui choisit pour son fils, en négociant les échanges de femmes. Donc, sachez que vous êtes privilégié de pouvoir choisir votre copain ou votre copine. Hein.
Dans beaucoup de sociétés, on ne choisit pas. Et l'amour n'est pas le principe du mariage. Hein? Alors, tandis qu'ici, la passion, la poussée et tout. Puis, actuellement, une petite statistique. En Île-de-France, plus d'un tiers des unions, qu'elles soient de mariage ou de... se séparent au bout de 7 ans. Donc ça circule vite. Hein. C'est-à-dire, l'amour, ça s'épuise, quoi. Il y a des mecs qui traversent toute leur vie en aimant. Mais en général, ça dure 7 ans, quoi. Donc tous les 7 ans, normalement, vous devriez changer d'amant, de femme, tout ça. Enfin, je vous dis ça. Mais ça marche très fort en France actuellement. Passons là-dessus. Donc là, tu n'as pas le choix. Hein. Donc la femme, les vieilles disent, quand tu as ton mari, quand tu vas faire ta maison, enfin, tu dois obéir à ton mari. Deuxièmement, alors je te donne je te traduis des trucs là. Quand les copains, enfin je traduis en français vulgaire, quand les copains de ton mari vont venir le voir, ne souris pas. Et s'il te sourit, c'est pour ton sexe. Etc. Enfin, c'est des leçons de... Donc, d'abord, c'est des leçons de subordination des femmes aux hommes, hein, qu'on leur dit. Bon. Après, moi, j'étais avec des femmes que je connaissais un peu plus loin, parce que quand 3 heures du matin, j'en avais plein le cul, ça se répétait tout le temps, tout ça, ça se répète. Hein. Alors, c'est là qu'on voit, quand tu es dans une société, il y a la façade, il y a les choses rituelles qu'il faut faire. Mais moi, j'étais avec des femmes qui parlaient entre elles. Vous avez l'habitude, vous avez vu ça. Et, putain, j'entends ce qu'elles disent. Alors, écoutez, ne soyez pas choqués, mais écoutez. Alors, vous avez une scène rituelle dans laquelle on apprend aux filles, aux jeunes filles, à obéir. Hein. Et moi, je suis avec des femmes que je connais qui me disent, qui discutent entre elles et qui disent, ah, le mien, c'est-à-dire mon mari, il est con. Tu peux pas t'imaginer, il est con, ben, je traduis en français ordinaire, il me fait chier, bon, c'est très bien. Et l'autre, alors c'est pire, elle me dit pas à moi, mais elle dit, lui, il a une grosse queue, mais il sait pas s'en servir. Alors donc, tu es avec une scène magnifique où les rituels et les normes, ça, et à côté, tu as des femmes qui ont des distances par rapport à ça, et le respect par rapport à un homme n'est pas évident, là, tu vois. Donc, si tu passes 15 jours chez les gens, tu peux pas voir ça. Il faut comprendre. Alors, après c'est... Bon, le matin, les filles, les femmes se sont empressées de m'empêcher. Je l'ai appris tout de suite. Enfin, j'ai vu... toutes les jeunes filles sont parties se laver le sexe dans un rituel dans la rivière. Et là, on a bien organisé que j'arrive en retard. Donc cette partie-là, pas vue. Mais après, j'ai vu la suite. Alors là, c'est très dur. Là, on met un bâton dans la bouche des filles, des femmes, et on leur frotte le corps, les seins, et tout ça, avec des orties brûlantes. C'est épouvantable, c'est terrible. Et tout ça, c'est pour faire qu'elles comprennent la loi de la société, quoi. Bon. J'ai pas vu un modèle féminin contre les hommes. J'ai vu un modèle masculin transféré par les vieilles aux jeunes. Tu vois, c'est ça le truc. Alors maintenant, les choses ont changé. Hein. Ils sont tous chrétiens. Et alors, avant, et alors de plus en plus de viols. Maintenant, les hommes violent les filles dans la tribu. C'était impossible. C'était la mort. Et on paye 400 euros pour violer. Tu comprends, maintenant? On a institué des tribunaux, cohortes, c'est-à-dire le mot anglais, donc cohortes, dans les villages, et les vieux. Et maintenant, on peut violer une fille, parce qu'ils ont vu ça dans les... Alors maintenant, les gens... Attendez, dans les campagnes, il y a quelques jeunes qui ont des portables. Qu'est-ce qu'ils ont sur le portable? Du porno. Du porno. Des tas de films... Après, ils disent, mais c'est comme ça que les blancs, ils baisent. Donc il faut faire comme eux. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Alors aujourd'hui, chez les Barouillas, il y a beaucoup de viols et on paye pour ça. Donc l'argent, bon, ça n'existait pas de mon temps, quoi. C'est pas possible.
Donc c'est très dur l'initiation des femmes, mais ça dure que quelques semaines, quoi. Tandis que les hommes, c'est 10 ans. Et donc c'est l'élévation des hommes toujours au-dessus des femmes. Mais ça change, ça change, ça change. Ça change.
Une autre question ?
Vas-y. Ça va, vous n'êtes pas endormi, ça marche ?
Quand vous avez parlé de votre travail sur le terrain chez les Baroya, il y a une question que je n'ai pas pu m'empêcher de me poser. Est-ce que être anthropologue et être une femme, c'est possible ? Est-ce qu'on est accepté de la même façon ?
Oui, c'est plus dur que pour nous. C'est plus dur. Mais disons les choses crûment. Une femme blanche, c'est presque comme un homme pour les autres. Elle est européenne ou américaine. Tu peux pas empêcher que les gens pensent que tu es un peu... que tu peux faire comme femme ce qu'une femme noire va pas faire. Donc beaucoup d'anthropologues collègues d'ailleurs ont pu... mais souvent elles vont voir des choses dans le monde des femmes que moi je n'ai pas vues, quoi. Et elles vont parfois être ségrégées comme une femme locale l'est. Mais ce n'est pas automatique, cette ségrégation. Je connais des anthropologues femmes, américaines, etc., qui ont pu entrer parce qu'on les a invitées dans la maison des hommes. Donc elles étaient séparées des autres femmes qui n'ont pas le droit d'y entrer, mais en tant que femmes anthropologues blanches, on leur faisait une faveur quelque part. Donc, mais bon, c'est un métier de... C'est un métier où les femmes sont de plus en plus nombreuses, les anthropologues. Mais évidemment, moi j'étais seul dans la jungle et tout, il y avait des serpents et j'avais amené ma première femme là, hein, avec mes 2 enfants. Là. Oh là là, ma femme avait la trouille permanente, les serpents et tout pour le petit. En plus, les gars ils rentraient dans ma maison, moi je m'en fous. Seulement, quand j'étais couché avec ma femme, il venait tout debout autour du lit. Alors, ma femme a devenu folle. Debout autour du lit pour voir des blancs qui sont dans le lit. Et en plus, il m'expliquait, nous, on ne peut pas faire ça. Parce que dans l'espace d'une maison, les hommes couchent au fond et les femmes près de la porte. Et une femme ne peut pas aller du côté masculin. Alors, quand il couche dans les jardins ou n'importe quoi. Alors, l'idée qu'il venait voir comment un homme est à côté d'une femme pendant la nuit, ma femme, elle trouvait ça un petit peu gênant, quoi. Donc, au bout de 6 mois, elle s'est tirée, elle est rentrée à Paris, ben, avec les enfants qui devaient de toute façon aller à l'école. Donc, je suis resté 2 ans seul. Alors, ça, c'est un autre risque du métier, c'est que ma femme, quand je lui ai dit que j'allais rester 1 an de plus pour les initiations, elle m'a envoyé une lettre pour divorcer. Donc tu dois payer quand même ton métier. C'est pas du journalisme, tu viens pour 15 jours, là. C'est un peu plus dur. Faut négocier avec les gens autour de toi, quoi. C'est ta femme, tes compagnes, tes copains, tout ça. C'est un métier de travail sur soi. C'est un peu comme les marins qui se tirent pendant 1 an et qui reviennent. D'autres questions ?
Oui, moi j'aurais une question. Vous avez évoqué l'agrégation, l'entretien avec le jury.
Oui.
Et en fait, c'est toujours comme ça, je veux dire. Il y a un différent, un dissentiment entre les anthropologues, les sociologues, les ethnologues et la philosophie. Comment vous le voyez ? Est-ce que vous en parlez entre vous ? Comment... C'est quelque chose qui, évidemment, nous inquiète pas mal si on passe le concours,
oui,
parce
oui,
que,
oui.
Vous voyez, c'est en philo. Donc...
Non, mais vous avez raison. Moi, quand j'étais tout petit, enfin jeune, j'ai passé une agrég de philo, là. Une licence de sociaux, j'ai fait. Une licence de lettres. Plein de trucs qui m'ont servi à rien, pratiquement. Mais sauf la philo, ça vous apprend à construire, à vous interroger, à une opération réflexive sur vous-même, sur vos méthodes. Seulement, c'est quand je travaille sur pour découvrir des invariants que je me retrouve philosophe. Autrement, les philosophes sont incultes la plupart du temps. C'est-à-dire, ils ont derrière eux, et j'adore Aristote et tout, mais pour arriver chez les Barouya, sur la diversité culturelle, c'est plus compliqué, quoi. Donc, je trouve que les philosophes manquent de matériaux empiriques de travail, quoi, c'est tout. Mais les opérations intellectuelles, je les partage. Maintenant, quand j'entends, quand je lis du Heidegger, je rigole, moi. Il y a des trucs qui me font rigoler, quoi. Je me souviens quand je suis rentré de, alors que j'avais étudié la grande logique, la petite logique et tout, avec Canguilhem, là. Je me souviens. Je rentre de 3 ans chez les Barouya, c'était mon initiation, si on peut dire. Et j'avais pas lu parmi les œuvres de Hegel, j'avais lu l'histoire de la philosophie, tout ça, la propédeutique. Bon, putain, je reviens, je vois dans une librairie la propédeutique traduite. C'était 8-10 jours après mon retour de 3 ans. J'achète tout de suite la propédeutique et je commence à lire Hegel dans le métro. Bon, troisième page, j'ai dit, ah là, putain, c'est pas possible. C'est un peu comme Descartes, il dit, je suis un être fini, si j'ai l'idée d'infini, c'est qu'on l'a introduit quelque part, puisqu'un être fini, bon, des rigolades pour moi, tout ça, c'est des rigolades d'un certain point. Donc j'ai jeté le bouquin de Hegel, j'ai pas touché, c'est fini. Donc, en fait, c'est difficile, hein, le rapport avec la philo, l'endroit où je touche, où j'approche, c'est quand je cherche des invariants dans des systèmes, vous voyez, et que quand même derrière, par exemple, c'est étonnant l'imaginaire des religions. C'est étonnant, c'est extraordinaire les constructions, elles sont logiques, mais en même temps, si je suis musulman, je ne crois pas du tout que Jésus était Dieu et fils de Dieu. Mais si je suis chrétien, je ne pense pas que Mahomet a été inspiré par l'ange Gabriel. Donc, pour ceux qui n'y croient pas, c'est imaginaire, ça se voit. Pour ceux qui y croient, ça n'est pas imaginaire, c'est surréel. C'est plus réel que ce que je vois tous les jours. Alors, quand j'arrive à des trucs comme ça, qu'une religion est vécue comme surréelle, qu'il n'y a pas de doute possible, ou que le doute est écarté, là, je pense que je rejoins les philosophes quelque part. Vous comprenez? Parce que c'est des problèmes universels. Donc le philosophe, en général, prétend penser des choses universelles quand même. Non, c'est... Alors voilà mon rapport avec la philo. Je crache pas dessus, hein. Mais j'ai du mal, quoi. J'ai du mal. Mais je sais que c'est indispensable. J'ai eu raison de dire à Sourio, là, au président de jury, qu'est-ce que vous voulez faire? Surtout pas de philo, monsieur. Alors, il était un peu surpris, quand même. c'était sympa. Je me suis bien marré, là. Mais c'était bien, ouais. C'est harassant de préparer des concours, mes enfants, c'est dur, quoi. Toujours passer de concours de normal, puis ensuite la grecque de philo, on n'en finit plus, quoi. Hein? C'est dur. Il faut quand même aller au cinéma de temps en temps, non? Bon, mais je ne regrette pas toute cette formation. C'est une formation dure, mais elle est un outil indispensable dans la vie, quand même. Je peux... Formidable. Bon. Allez, d'autres questions? Soyez... Oui. Une ici et une là-bas. Attends, au fond, c'est... vas-y, à toi, là-bas.
Nous avons jusqu'ici un...
Parle fort, hein, parce
nous
que...
Nous avons un assez triste tableau des relations entre l'Occident et cette tribu dont vous nous parlez. Mais est-ce qu'en quelque façon, ces relations ont été fécondes, ont été bénéfiques? Est-ce que cette tribu s'est vue apporter quelque chose par l'Occident et inversement?
J'ai pas bien compris. Vas-y, parle fort.
Est-ce que les relations entre l'Occident et cette tribu dont vous nous parlez ont été fécondes de quelque manière Est-ce que, parce que jusqu'ici, on nous dit, enfin, vous nous dites que la seule, j'ai l'impression que la seule chose qu'on leur a apporté, par exemple, ce sont des sites porno ou des choses de ce genre. Alors, est-ce que nous leur avons apporté des choses intéressantes, je veux dire.
Il y a beaucoup de choses qui ont été apportées par l'Occident. Il faut pas. Le point de confrontation, l'Occident promeut l'individu. Hein. Et donc. Moi, je préfère vivre ici qu'ailleurs, parce que je suis libre de croire ou ne pas croire. Donc, on promeut l'individu. Mais c'est normal. Hein. Nous sommes une société qui fait que les individus poursuivent leurs buts et doivent les poursuivre de telle sorte qu'ils ne gênent pas les autres, hein, pour être conscients, quoi, tu vois. Bon. C'est pas le cas dans beaucoup de sociétés où on pense que l'individu doit d'abord servir la société. Tandis que nous, les Occidentaux, on se sert de la société pour se développer, non ? C'est pas le cas dans beaucoup de sociétés. Donc, par exemple, les droits de l'homme, tu vois, les Chinois n'aiment pas ça. C'est pas parce que ce sont des terroristes, mais il faut d'abord servir la société plutôt que se servir soi-même. Alors, on a apporté énormément, il faut pas croire. Ne serait-ce que les sciences, hein. Actuellement, il y a des physiciens chinois, japonais, tout ce que tu veux. Donc tout un secteur qui n'existait pas, s'est développé. Et il va pas cesser de se développer. Mais il y a une confrontation. L'Occident était dominant, quoi. L'Occident était violent. Violent, d'une violence terrible. Alors, regardez la conquête de l'Amérique par les Espagnols, quoi. On brûlait les mecs parce qu'ils n'étaient pas catholiques et tout ça. On les regroupait autour d'une église, on faisait construire par les Indiens et tout. Je veux dire qu'à ce moment-là, c'est pas la liberté individuelle qui comptait, hein. C'est la domination. Donc, on a un passif énorme. On n'est pas le symbole du progrès. On n'est plus le symbole du progrès unique, comme si c'était nous qui portions seuls le progrès. Donc, il y a quelque chose qui a changé dans le monde depuis une cinquantaine d'années, et même dans notre société, il y a des gens qui doutent du progrès, dans notre société occidentale maintenant. Hein, c'est presque un concept cochon, quoi, le progrès. Mais non, ce n'est pas ça. Seulement chez nous, ça se fait par des luttes politiques, où l'individu a le droit d'adhérer ou ne pas adhérer à un parti, tout ça. Ce n'est pas le cas dans beaucoup de sociétés. En Chine, il n'y a qu'un seul parti. Hein. Mais si tu es contre le parti, officiellement dans la rue, tu es en prison après, ou tu t'expulses, ou tu vas aux États-Unis, quoi. Donc, regardez un peu le tableau, quoi. Vous êtes lucide, non ? Tu vois le tableau. Donc on a apporté énormément, et on a ébranlé le monde. On a ébranlé le monde. Comme autrefois, le christianisme a ébranlé une partie de l'Europe. Je pense que le Danemark a été chrétien au XIe siècle. Tous ces pays du nord de l'Europe étaient des païens. Il y a eu des missionnaires pour les évangéliser. Mais jusqu'au XIe siècle, c'était des tribus comme chez nous, en Nouvelle-Guinée, quoi. Donc, si vous n'avez pas une perspective historique, et voir les côtés des choses, des processus, c'est pas. Mais il y a quand même quelque chose que l'Occident porte. Alors moi, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui disent c'est jamais pour les droits de l'homme qu'on se bat, c'est pour le pétrole, tu vois. C'est-à-dire les droits de l'homme, c'est un masque pour piquer les ressources pétrolières, ou le cuivre, ou je sais pas quoi. C'est vrai, c'est pas seulement ça, quoi. C'est pas seulement ça. Alors voilà ce qui se passe dans le monde que je connais, quoi. Il n'y a rien qui soit black or white. Il n'y a pas de foi sans mauvaise foi, mes enfants. Il n'y a pas de chose noire avec une tache blanche ou blanc avec une tache noire. Ce n'est pas possible. Donc il faut faire une analyse complexe, quoi. Allez-y. Hey, y avait une... C'est à toi, là. On allait t'oublier, là.
Vas-y. Quand vous parlez de rechercher des
Parle fort.
Quand vous parlez de rechercher des invariantes,
oui.
De base, vous le faites dans quel but? Vous recherchez quoi dans la recherche d'invariantes? Et quand vous les trouvez, ça vous apporte à quoi?
C'est parce que j'ai rien à faire dans la journée. Donc... je dis, merde, tiens, je vais chercher un invariant, là. Non, ta question est superbe. Ta question est superbe. Tu as bien vu que là, tu découvres des faits fondamentaux, quand même. Par exemple, sur la mort, que la mort n'est pas la fin de la vie, et que sous des formes différentes, culturellement différentes, ça soit présent. C'est donc quelque chose qui caractérise l'humanité en profondeur, ça. C'est ça la puissance de... Après, tu cherches la variation d'un invariant. Eh oui. Comment ce schéma qui est partagé va être culturalisé? Donc la création autour d'un schéma commun. Mais si tu ne reconnais pas que le schéma est commun, tu ne vas avoir que du relativisme culturel. Vous comprenez, le relativisme n'est jamais absolu. Toutes les sociétés se posent des questions universelles. Alors, les philosophes les rejoignent tout de suite. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que le pouvoir? Qu'est-ce que la nature autour de nous? Des questions, toutes les sociétés se posent ces questions, les réponses sont différentes. Donc il n'y a pas de relativisme absolu. Il n'y a que du relativisme relatif, si on peut dire. Tu comprends? Alors quand tu peux dégager un truc comme ça, tu as un élément commun, et comme ces questions sont universelles, comment à partir de cet élément commun, ils vont donner leur réponse historique et culturelle de l'Antiquité, tout ça? C'est pas simplement une question de l'esprit, c'est aussi que la société, on construit des sociétés. La différence entre les bonobos et nous, c'est qu'on est des animaux sociaux comme eux, mais nous, on produit la société pour vivre. Eux, ils vivent en société, c'est des animaux sociaux. Nous, on produit la société pour vivre. Produire la société, c'est produire la culture. C'est produire des institutions nouvelles. C'est se différencier. C'est devenir différent. Tu comprends? Et donc, en plus, je jouis intellectuellement. Je dois te dire que quand je travaille et que je trouve un truc comme ça, j'ai passé, la journée est bonne, quoi. Mais ça demande du boulot, quoi. Mais ça, ça me fait, grâce à toi, dire que toutes les sociétés se posent des questions universelles. Et les philosophes, en général, s'établissent au niveau des questions universelles. Les théologiens aussi. Donc, c'est pas du temps perdu, non. Allez-y, profitez, vas-y.
À votre époque, vous avez pu observer une culture qui était radicalement différente de la nôtre. Mais aujourd'hui, ces mêmes personnes que vous avez étudiées, observées, sont devenues chrétiens, comme vous le disiez, et s'insèrent toujours plus dans un monde global qu'on connaît bien. Est-ce que vous pensez que les sociétés tribales que vous avez pu étudier à votre époque subsisteront face à cette homogénéisation de la société? Et de la même façon, est-ce que l'anthropologue aura toujours matière à étudier?
Mais il y a du boulot pour longtemps, oui. Oui. J'ai la chance d'avoir presque 50 ans d'observation de la même société. Hein. Je suis arrivé en 1967. Donc 1967. Donc j'ai presque 50 ans d'observation. Ou bien une étudiante à moi est partie là, de 2014-2015. Elle m'a ramené 600 pages de notes, des photos et tout. J'ai vu les transformations. Là. C'était mieux. C'est pas l'homogénéisation. C'est pas le mot qu'il faut dire. Je te donne un exemple. Les Baroyas, c'était des grands guerriers, hein, tout ça, ok. Une société de guerriers n'accepte pas facilement un chef. Tu as un chef de guerre, mais quand il rentre chez lui, il fait son jardin comme tout le monde.
Alors, je vois maintenant que les Barouya, d'après ce que mes assistants, tout ça, me disent, l'un est devenu professeur d'université, etc. Mais quand il rentre chez lui, dans la tribu, il ne peut pas commander aux autres. Il ne peut pas. C'est comme si, j'emploie un mot que je n'aime pas du tout, l'éthos, comme on dit, la manière d'être de guerrier, continue à se reproduire dans un monde moderne. Et donc, il n'y a pas encore la possibilité que le gars qui a fait des études, il devienne chef de village. C'est pas leur truc, c'est pas leur truc. Mais ça va pas durer. Quoi, ça. À un moment, ils vont se rivaliser entre eux, ils vont concurrencer déjà le fait qu'ils font du café. Pour planter du café, il faut avoir des terres bonnes pour le café. Et dans un espace, il n'y a pas toujours les bonnes terres. Donc, dans les premiers temps, j'ai vu le café arriver. C'était des compagnies européennes, enfin américaines, qui leur donnaient gratuitement des milliers de plants de café pour devenir producteurs. Alors, à cette époque, des mecs qui n'avaient pas les bonnes terres allaient trouver leur beau-frère et tout, un autre clan, disant « Est-ce que je peux planter des plants de café ?» Oui, mais quand c'est gros et grand, l'arbre, il reste. Et après, quand tu veux du fric, tu voudrais bien que utiliser la terre et donc que les types retirent leurs arbres pour que tu plantes les tiens sur ta terre. Donc aujourd'hui, il y a des problèmes qui n'existaient pas avant. Avant, on jouait la logique tribale et interclanique. Maintenant, on joue la logique individuelle perso, quoi. Alors, donc, ça, on connaît. Donc, ce que tu appelles homogénéisation, si tu appelles homogénéisation des comportements analogues aux nôtres qui se développent, oui, tu as raison. Maintenant, les gars qui se disent chrétiens, je vais te dire que dans la semaine, ils font des prières chamaniques et le samedi, ils vont à la messe. Donc, tu vois quel christianisme ça peut être. C'est des syncrétismes qui vont se développer, des tas de religions syncrétiques, un peu de christianisme, un peu de machin et trucs. Bon, chacun invente sa vie, hein. Ça invente sa vie. Mais ce qui s'effondre, c'est le pouvoir global des Blancs, d'un certain point de vue. D'un certain point de vue, hein, je dis. Vas-y, toi, vas-y.
Ouais,
parle
moi,
fort.
Ouais. Moi, c'est une question sur le décentrement. Vous dites que c'est très important, et je suis tout d'accord avec vous, hein, mais je me demande comment on peut le faire dans la vie de tous les jours, parce que, dans la vie de tous les jours, voilà, parfois on rencontre des choses qu'on ne connaît pas, même parfois dans la rue, etc. Et on a presque comme un premier réflexe, c'est de finalement se refermer, de juger cet élément inconnu négativement. Comment est-ce que pour vous, on pourrait réussir à opérer ce décentrement dans une... Ouais, dans une dimension peut-être plus quotidienne que scientifique.
Mais t'es obligé, tous les jours, t'es obligé. Qu'est-ce que c'est le décentrement ? C'est d'abord te fermer ta gueule. C'est simple. Au lieu de baratiner tout de suite, de réagir, tu arrêtes de réagir. Tu te travailles sur toi-même. C'est un travail sur soi, quoi, pour dire les choses simples, quoi. C'est la suspension du jugement. C'est pas intervenir quand le type parle, c'est écouter jusqu'au bout. Quand t'as pas compris, tu dois dire aux gens « j'ai rien compris, apprenez-moi ». Donc c'est un décentrement, quoi. Après, il faut pas juger, tu es là pour entendre et écouter. Donc, alors écoute, ça, je vais vous raconter une anecdote quand même qui va vous faire flipper un peu, là. Les Barouya étaient cannibales, hein. Donc... je savais qu'ils étaient, mais moi, je ne peux pas écrire dans un livre qu'ils sont cannibales s'ils ne me l'ont pas dit. Vous comprenez ? C'est une question de déontologie, quoi. Je ne suis pas du sens... C'est pas le sensationnalisme. Alors, quand même, ça me démangeait, quand même, non ? Alors, un jour, il y a un vieux monsieur d'un clan, le clan des Etché, hein. Il s'appelait Etchéangé, c'est-à-dire l'homme des Etché, c'est-à-dire le plus vieux d'un clan. Il était aveugle.
Et pour blaguer, il voulait voir un blanc. Vous voyez, un aveugle qui veut voir un blanc, ça va. Donc on me dit, écoute, Etchehangé, il voudrait te rencontrer, il n'a jamais rencontré de blanc. Il va venir demain. Alors bon, je vous ai dit que j'avais construit ma maison et tout, avec les chiottes et tout. Bon. Donc le lendemain arrive le vieux avec deux jeunes gens. Et on commence à parler, il rentre. Et je retire mes lunettes. Parce que, en arrivant, il commence à me ploter partout, à me caresser partout. Je n'allais pas lui donner l'image qu'un blanc, il est un peu bizarre sur sa tête. Il aurait trouvé une structure métallique, non ? Donc je retire mes lunettes, il me palpe. Ok, bon, très bien, on commence à discuter là. On discute de son clan, les Etchés, quand est-ce que vous êtes venus. Puis à un moment, évidemment, moi je suis un peu vicieux, quoi. C'était la bonne occasion, comme on dit en français. Donc, d'un seul coup, j'ai dit, mais dis-moi, t'as déjà mangé de l'homme ? Les deux jeunes guerriers, là. Le vieux, la tranquille, oh, oui, bien sûr. Ah bon, quand ils ont vu que ça m'excitait pas, quoi, les deux jeunes, quand même vu que je critiquais pas, tout ça. Donc on a commencé à faire une vraie discussion sur le cannibalisme, quoi. Hein. Alors j'ai dit, comment vous mangez ? Oh, ben, tu sais, Maurice, les ennemis, on leur coupe les bras. C'est plus facile à transporter, les jambes, etc. En route, dans la forêt, de temps en temps, on se fait cuire un morceau. Ok, why not? Et alors, après, j'ai dit, mais dis-moi, alors, vous voyez, le gars qui arrive avec sa culture, qui a lu dans les livres, que les gens qui mangent, ils mangent d'abord les grands guerriers pour prendre la force du guerrier en eux. Vous n'avez pas lu ça dans les livres, non ? Ça fait chic, quoi. Donc j'ai dit, est-ce que vous mangez les grands guerriers ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que vous mangez les femmes ? Ah ben, bien sûr. Déjà, tu vois le Godelier qui vient de Paris, qui a lu des bouquins, là. Et j'ai dit, mais alors, j'ose la question, là. Vous avez mangé les enfants aussi ? Oh, bien sûr, je me souviens une fois, on a mangé un bébé, c'était magnifique. Bon, ben, ok, ouais. Bon, donc vous voyez que là, vous apprenez quand même, non ? Hein ? Et alors, c'est intéressant parce que après, j'ai demandé à mes copains qui travaillaient en Amazonie, et là, en Amazonie, très cannibale. Et il y a un mot spécial pour la viande humaine par rapport à toute autre viande, gibier. Et c'est la meilleure des chairs à manger. C'est magnifique. Donc c'est pas parce qu'il manque de protéines, les gars, hein, c'est pas... Vous voyez, l'explication biologique, les types sont en déficit, donc de temps en temps, ils se payent un beefsteak qu'ils pourraient pas. C'est des conneries, tout ça. Alors donc, en fait, ils mangeaient parce que c'était bon, quoi. Alors après, il me dit, malin, dis-moi, est-ce que tu mangerais, alors, si on fait cuire un mec, là ? Je dis, oui, tout à fait, un adulte, moi, je suis pas contre. Les bébés chez nous et les enfants, c'est pas possible. C'est pas mal comme réponse, non ? J'ai pas eu l'occasion de manger un morceau... Ça ne s'est pas présenté. C'est très réprimé, le cannibalisme, par les Blancs, par les missionnaires et tout. C'est normal, hein, je ne vais pas faire l'apologie du cannibalisme. Mais bon, mes illusions sont tombées. Et après, quand j'ai découvert que mes copains d'Amazonie et tout ça, dans les langues, trouvaient un mot spécial pour la chair humaine, vous avez une perspective historique et sociologique, pour revenir à la question. Tu découvres des choses de l'humanité. Pas pour... Par exemple aussi, les anthropologues ont inventé le mot endocannibalisme, vous savez. Exo, vous mangez les ennemis. Endo, vous mangez vous-même, vous mangez vos morts. C'est fou. Moi, je connais une tribu qui est endo-cannibale, où les femmes mangent les cadavres, toutes, y compris les bébés d'ailleurs. Et donc, en faisant l'enquête, les femmes, c'est la philosophie, hein, là. Les femmes disent, on fait ça par amour, parce qu'on ne veut pas que le cadavre pourrisse dans la terre, c'est dans notre corps, et en faisant ça, on libère son âme qui va rejoindre le séjour des morts. Donc les femmes libèrent l'âme des cadavres et sont comme... Donc c'est un acte religieux, c'est pas... Pourquoi dire endo-cannibale, canis, ça veut dire le chien quand même, non ? Bouffer comme des chiens, non ? Là, c'est un acte rituel complet, là, complet. Et là, c'est un médecin que je connais bien, qui a travaillé 2 ans chez les gens. On n'avait pas du tout d'enquête claire. Et il a ramené des précisions. Il a suivi tous les rituels cannibales. Et il a bien vu que c'était pas cannibale sur les morts, hein, pas cannibale sur les ennemis, quoi. Et il a vu que c'était un acte cosmo-religieux, quoi. Donc il ne faudrait pas dire endo-cannibalisme, il faudrait dire autre chose, mais c'est pas beau ça, c'est pas vrai. Donc vous voyez ce qu'on trouve là pour ta question toujours, à quoi ça sert de faire notre boulot là, ben, à démonter des choses qui sont des jugements extrêmement péjoratifs sur les gens, quoi. Mais ça ne légitime pas, hein. Par exemple les Aztèques qui tuaient des milliers de gens pour que le sang nourrisse le soleil, c'est pas, les Européens étaient fous de peur devant des barbares, mais en même temps, il faut comprendre d'abord le sens de ce qu'ils font. Et moi, je vais pas devenir cannibale parce que je comprends le cannibalisme. Vous comprenez bien. Je vais pas me transformer parce que je comprends. J'ai ma propre culture, ma propre, etc. Mais déjà, comprendre, c'est énorme. Hein. Mais c'est pas pour ça qu'on agit comme les autres. Il y a des anthropologues qui sont devenus des Indiens, ils se marient avec une femme et tout. Et ils reviennent plus. Ils reviennent plus. Hein. Ils passent de l'autre côté, là. Comme ça. Et dernière question. Hein.
Une question.
Après, on va aller boire un coup, parce que... Voilà, faut pas pousser, quand même. C'est la
question.
Fatigue, là. Ils sont touchés, c'est la fatigue.
Ils sont abattus, oui, c'est le cannibalisme.
Abattus.
Bon, ben merci encore.
Allez, salut à vous.